Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, c'est le maître de l'univers. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde. Et quelqu'un, il doit savoir cette chose-là. On doit le ressentir de tout notre cœur. Et c'est pour ça qu'à travers ce livre de Galout et Geoula, et à travers ce livre qui est le livre de la foi, on sait que Hachem nous a montré les 10 plaies, il nous a montré aussi Mahamad Har Sinai, que le Rambam nous dit que ce moment où on était tous au pied du mont Sinai, c'est là où on s'est renforcé dans la Emouna et dans le Bitachon Bachem, où on a vu à Kadosh Baruch Hu que c'était lui le maître de l'univers. C'est là où véritablement c'est ancré dans tous les cœurs de tous les Bnei Israël du monde qu'il y a un dirigeant dans le monde et qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Même les 10 plaies, tout ça, toutes ces choses-là, c'était pas quelque chose qui a finalisé la foi et la croyance en Kadosh Baruch Hu. Quand on était tous au pied du mont Sinai et que c'est marqué là-bas que les cieux se sont ouverts et qu'Akadosh Baruch Hu, il est apparu devant tous les gens. C'est marqué, tous les aveugles, ils ont recouvert la vue, tous ceux qui étaient sourds, ils ont pu entendre, tous ceux qui étaient muets, ils ont pu répondre. Ils ont dit tous, Naase Venishma. C'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans sa majesté, dans sa splendeur. Les 7 cieux se sont ouverts pour que les Bnei Israël sachent une chose, que Enod Milevado, Ataoret Aladat, Kiyashem O Elohim, Venod Milevado, il n'y a personne à part Akadosh Baruch Hu, les 7 cieux se sont ouverts. Il n'y a personne mitachat hashamayim, il n'y a personne en bas, il n'y a personne en haut, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. Et donc ce sefer de Shemot, c'est un sefer dans lequel l'homme il doit étudier et se renforcer profondément dans cette croyance en Hachem, pour que quand il sera confronté aux épreuves qu'il a dans sa vie, alors il vit cette émouna, il la ressent, comme on a vu dans le sefer Bereshit. Le sefer Bereshit, c'est un sefer où on travaille les midot, les qualités de cœur. Et on voit comment ces gens-là, ils avaient la Emouna et le Bitachon. Avraham Avinu, comment il a découvert Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, comme il a été prêt à faire le sacrifice avec son père, il a été prêt à se donner en sacrifice parfois pour Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, comment il s'est comporté dans toutes les épreuves qu'il a eues avec la vanne qu'il a roulée à 100 reprises. Et lui, il est resté dans son intégrité, dans sa grande honnêteté, malgré tout ce qu'on a pu lui faire. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience qu'il y a un dirigeant dans le monde. Et après les Shevatim, et après... Les dignes héritiers, c'est justement Moshe Rabbeinu, Betzalel, tous les personnages qui vont nous être décrits dans ce sefer-là. De la même façon que dans ce sefer de Bereshit, on apprend les midot, c'est-à-dire les qualités de cœur, les qualités et les défauts que l'homme doit travailler pour pouvoir atteindre la plénitude. De la même façon, dans le sefer de Shemot, l'homme doit apprendre le kinyan de la Emouna. C'est un livre où quand on lit les 10 plaies, quand on lit ce qui est arrivé aux Égyptiens, quand on lit comment Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Mont Sinaï dans la paracha de Yitro, quand on voit comment Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, à ce moment-là, la personne, elle se charge d'une grande, grande foi et d'une grande connaissance d'Hachem. Et à ce moment-là, il peut espérer être proche de Borei Olam. Le Keilat Yaakov, le stapler Rav Yaakov Israel Kanievski, qui était le maître de la génération passée, il faisait partie des maîtres de la génération passée, c'est le père de Rav Chaim Kanievski, un des grands gdolim de notre temps. Il rapporte dans un sefer qui s'appelle Birkat Peretz. C'est un sefer extraordinaire que le Rav Kaplan m'a transmis. Il m'a transmis ce commentaire. Il rapporte dans la Gemara de Sota, le Talmud dans la Torah orale, donc à la page 12, folio 1, nous rapporte que le premier décret que les Égyptiens ils ont pris contre les Bnei Israël, vous savez ce que c'était ? C'est qu'il fallait écraser et tuer tous les enfants de sexe masculin. Tous les enfants qui étaient de sexe masculin, il fallait les tuer. Au début, c'était un décret qui visait tous les Bnei Israël, et après, ça a visé non seulement les Bnei Israël, mais également les Égyptiens. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu dans les astrologues de Pharaon, ils avaient vu qu'il allait avoir un libérateur qui allait sortir du Ham Israël, et qui allait sortir, donc il fallait faire, et comme ils ont vu qu'il allait être puni par les eaux, alors il fallait le noyer dans l'eau. C'est ce qu'ils ont compris. Alors ils ont essayé par tous les moyens de les noyer, chaque fois ils voulaient faire un grand pogrom et éliminer le maximum de Bnei Israël. Et à ce moment-là, on sait qu'on doit notre survie à des femmes vertueuses qui étaient Yochebed et Myriam. Shifra et Pua nous dit la Torah, c'est Yochebed et Myriam, la mère de Moshe Rabbeinu, Yochebed, et la grand-mère de Betzalel, qui a construit le Mishkan, c'est Myriam, et c'était la sœur de Moshe Rabbeinu. Et ces deux-là, vous savez qu'elles ont risqué leur vie, c'est marqué « Vatirena et Amialedot à Ivriot » Et à Elohim, velo asha kasher diber laim paro. Elles ont eu la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ces deux femmes-là, elles n'ont pas fait ce que Paro leur a dit et elles ont fait vivre les enfants. Pourquoi ? Pas pour rentrer dans le livre des records et rentrer dans le monde de l'humanisme et tout ça, on va dire oui, c'est des grands humanistes et tout ça. Parce qu'ils voulaient craindre Akadosh Baruch Hu. Ils voulaient faire vivre ses enfants, pas pour qu'on dise c'est des gens très courageux. Non. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire vivre ses enfants, on devra les faire vivre. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire survivre Moshe Rabbeinu qui a été le sauveur du Ham Israël. Et le Rav nous dit ici, on voit comment la providence s'est retournée et s'est dévoilée devant Pharaon d'une façon extraordinaire. Pharaon, il s'est dit, on va essayer d'aller contre les Bnei Israël. On va essayer de les noyer. On va essayer de faire en sorte de faire disparaître le sauveur et le libérateur du Ham Israël. On voit que sa propre fille, qui était Bitya bat Paro, c'est elle qui est venue au secours de Moshe Rabbeinu et qui l'a sauvé. Akadosh Baruch Hu, il lui dit dans le ciel, toi tu as décidé de tuer les Bnei Israël et de tuer le sauveur. Sache que c'est ta propre fille qui va sauver cet enfant-là, que toi, t'as mis tout en place un processus pour pouvoir faire en sorte de tuer le maximum de personnes. Sache que ta propre fille, c'est par elle que viendra le salut et la sauvegarde du Ham Israël. Et plus encore, nous dit le Even Ezra. Quelque chose d'extraordinaire. Rabotai, qui c'est qui a fait en sorte de sauver Moshe Rabbeinu? Qui c'est qui a éduqué Moshe Rabbeinu? C'est Paro lui-même. Pharaon, il a pris Moshe Rabbeinu, il l'a mis dans son palais, et c'est lui qui a fait vivre. C'est lui qui a fait vivre cet enfant. Il a aidé à grandir, il a aidé à se faire sa renommée. Et il lui a appris. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il est né spécifiquement dans cette maison? C'est l'ironie du sort. Voilà, Pharaon, il voulait tuer cet enfant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a pris cet enfant-là et on l'a mis dans sa maison à lui. Pharaon, il était abasourdi. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis obligé d'éduquer celui qui va être le libérateur du Ham Israël. Et tout ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. Moi, j'ai décidé de tuer tous les enfants d'Israël. Maintenant, non seulement je ne vais pas les tuer, mais en plus, c'est moi qui vais l'éduquer, c'est moi qui vais le nourrir, c'est moi qui vais le faire grandir, c'est moi qui vais faire en sorte qu'il atteigne sa maturité. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et on sait qu'il a fait rentrer sa mère, la mère de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, PLP, à Daber, il allait parler avec la Shekhina. Et on sait que quelque chose qui sort de quelqu'un de tamé, c'est tamé. Quelque chose qui sort de quelqu'un d'impur, c'est impur. Donc le lait d'une femme qui n'est pas juive, on n'a pas le droit de le donner à un enfant. Et Moshe Rabbeinu refusait de boire tout le lait de toutes les nourrices qui soient. Pourquoi? Parce qu'il était obligé, parce qu'un jour ou l'autre, il viendrait à parler avec Akadash Baruch Hu. Et à tel point que le Shulchan Aruch et le Rama ramènent dans la halakha, quelque chose d'extraordinaire, qu'aujourd'hui encore, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, qu'un enfant n'a pas le droit d'être nourri par une nourrice Goya, pour nous dire que de la même façon que Moshe Rabbeinu allait être amené à parler avec la Shekhina, tous les enfants d'Israël peuvent avoir ce privilège et ce bénéfice. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas les invalider et impurifier leur contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la halakha et les psouka, qu'on n'a pas le droit de se faire nourrir seulement par une nourrice juive, que ce qui sort d'elle qui est pur, c'est du lait qui est pur. Et voilà que Pharaon fait venir dans son propre palais une femme qui est la mère de Moshe Rabbeinu, qui va donner à boire à cet enfant alors qu'il aurait voulu sa mort. C'est quelque chose d'invraisemblable. Normalement, quelqu'un qui voit une chose pareille, pourquoi il a appris? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il est né dans cette maison et pas dans d'autres maisons? Parce que Moshe Rabbeinu, il devait apprendre les anagotes du Meler. Moshe Rabbeinu, il allait être amené à diriger les Bnei Israël, à être le leader de tout le Ham Israël. Il fallait qu'il apprenne à être un leader. Et où c'est qu'il a appris ça? Dans le leader de Mitzrayim. Paro, c'était le dirigeant. Donc, il voyait comment il se comportait. Un dirigeant, il doit avoir de la force, il doit être puissant, il doit savoir comment parler avec ses populations, comment parler avec les justiciables et les personnes qu'il a à sa charge. Il a vu comment Paro il s'est comporté avec les autres pour pouvoir avoir cette mida de Gvura. Bien sûr, il n'a pas appris toutes les mauvaises choses de Paro, mais il devait s'inspirer, nous dit le Even Ezra, de ces éléments qui allaient faire de lui un meler. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Habibi, tu as décidé de tuer le libérateur et le sauveur d'Israël. C'est ta fille qui va le sauver. Et c'est dans ta propre maison qu'il va être éduqué pour qu'il puisse apprendre à être un libérateur du Ham Israël. Et en souvenir de ce miracle extraordinaire, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le seul nom que Moshe Rabbeinu, il a gardé, alors que la Gemara nous dit, dans Maseret Megillah, si mes souvenirs sont bons, que Moshe Rabbeinu, il avait plusieurs noms. Il avait 9 noms, je crois. Il avait Yekutiel, il avait Touvia, il avait Avigdor. Il avait beaucoup de noms, Moshe Rabbeinu. Moshe, c'était un nom que cette Mahboula, c'est pas une Mahboula, parce que elle, finalement, elle s'est convertie. On dit que quand elle est rentrée dans le Nil pour pouvoir sauver Moshe Rabbeinu et qu'elle elle a sauvé des eaux, on dit que c'était une villa de Guérout, de conversion. Quand elle est sortie de cette eau, c'était son migvé pour pouvoir se convertir à la Torah. Elle voulait se convertir, bien sûr, elle a voulu se convertir. Donc à ce moment-là, mais comment ça se fait que c'est le nom qui a été donné par une Égyptienne qui reste pour Moshe Rabbeinu, demande le Rav Kanievski. C'est une question très forte. Normalement, on aurait dû donner les noms qui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu. Hachem dit, Vodo, Béatmo, il donne des noms à Akadosh Baruch Hu. Et quel est le nom qu'on va garder? C'est le nom qui a été donné par cette femme-là. C'est quelque chose d'invraisemblable. Le Rav Steifeler nous explique une chose extraordinaire, mes chers amis. C'est pour nous dire qu'on se rappelle éternellement comment Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce talir-là, toute cette procédure pour nous montrer que c'est lui qui dirige le monde, qu'il y a une providence qui s'applique sur chacun des Bnei Israël, que c'est Hachem Yitbarach qui dirige le monde. Et chaque fois qu'on verra ce nom de Moshe Rabbeinu, on se souviendra que c'est cet Égyptien qui voulait tuer, c'est sa propre fille qui l'a sauvé. Et cet Égyptien qui était le maître de tous les plus mauvais desseins qu'il y avait au monde, c'est lui qui les avait, et ben voilà, c'est toi qui vas le sauver, tu vas l'éduquer, c'est le nom que ta fille elle a donné. C'est ce nom-là qu'on va garder pour lui. Comme ça nous dit le stapler. Il y a une explication que j'avais entendue du Sforno extraordinaire de Rav Diamant, elle est dans le Sefer, dans le shiur du Shalom Bayit, il y a un shiur sur le Shalom Bayit magnifique. Mais ici je vois que vous êtes venus en couple, donc vous avez l'air d'être des soudards de ce point de vue-là. Bon, Hachem. Il dit là-bas le... Sauf toi, je vois que ta femme, elle n'est pas venue avec nous, il faut que tu lui dises de venir écouter ce passage-là. Ou tu vas lui rapporter ce passage, Bédrat Hachem. Bédrat Hachem. Ça fait plaisir. Regarde, mon frère, écoute bien ce Sforno-là. Le Sforno, il dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi on l'appelait Moshe? Parce qu'il a été sauvé des eaux, c'était quelque chose qu'on est venu faire pour pouvoir faire en sorte de se souvenir qu'il a été sauvé des eaux. C'est une piste correcte, c'est un souvenir qu'on veut avoir. Mais nous dit le Sforno, qui était un grand grammairien, un italien très 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 fort dans la Torah, il a fait un commentaire sur un pirouche sur la Torah qui est très répandu dans tous les livres, il est très très fort le Sforno. Il nous dit que Moshe Rabbeinu, si jamais on voulait l'appeler quelqu'un qui a été sauvé des eaux, on ne devait pas l'appeler Moshe, on devait l'appeler Machouille. Les gens ils se seraient moqués de lui. Machouille, c'est pas un mot, c'est sympa, comme on va machouiller, c'est pas bien. Mais c'est ça le sens littéral de sauver des eaux, c'est Machouille, ça s'appelle pas Moshe. Moshe, c'est pas qui est sauvé des eaux, c'est celui qui sauve des eaux, lui qui sauve des eaux. La fille de Pharaon, mes chers amis, elle est venue et elle a donné ce nom pour qu'il sache une chose, Moshe Rabbeinu. Il sache que pourquoi je t'ai sauvé à une seule condition, c'est que à ton tour, toi aussi, tu puisses sauver des gens. Je t'ai pas sauvé pour que toi, tu puisses recevoir quelque chose, mais que tu puisses pas le restituer. C'est ce qu'elle est venue lui dire. Tout ce que moi, je te sauve, Moshe Rabbeinu, c'est pour qu'à ton tour, quand tes frères, ils seront bêtards, ils seront dans l'obscurité, dans la pénombre, tu viennes les sortir de cette obscurité et tu les fasses venir vers la lumière. C'est pour ça que je t'ai appelé Moshe et pas Machouille. Parce que Machouille, c'est celui qui est sauvé des eaux. Il a fini son taftit dans le monde, il a été sauvé, c'est fini. Moshe Rabbeinu, celui qui sauve des eaux. On sait que le nom, c'est la maout de la personne. Ça fixe la destinée de la personne. Toi, tu vas être amené dans l'avenir à être le sauveur du Ham Israël. Alors ton nom, ce sera celui qui va sauver les Bnei Israël. Parce que moi, je t'ai sauvé à cette condition. Et lui, c'est la même chose. Les gens, ils doivent savoir dans le mariage. Il doit savoir dans l'éducation des enfants, jusqu'à ce que l'homme il se marie, il ne fait que recevoir dans sa vie. Il a ses parents, il le gâte et tout ça, M. Ali Kana, M. Arbana, tout ça, il leur dit des mots, tout ça, il fait des techniques et tout ça, Fitcha Sraouya par-ci, Fitcha Sraouya par-là, le shawarma, le kebab, il te prépare les meilleures salades, Zahlouk, Tchouktouka, toutes les choses, il te prépare. Ils sont très gentils, les parents, toute la vie, ils viennent, ils te font mes sirout nefesh pour t'éduquer, ils te donnent les meilleurs... Le meilleur lit, ils te donnent les meilleurs habits, ils te font les bons vêtements et tout ça. Ils s'occupent de toi, ben mes shirut nefesh. Après, tu arrives sous la coupa. Et on va te mettre une alliance ici. Tu vas passer du preneur au donneur. Jusqu'à présent, tu n'as fait que recevoir dans ta vie. Maintenant, tout ce que tu as reçu, toute cette chaleur que tu as reçue, c'était almenate que tu puisses le transmettre à ta femme, à tes enfants, et que tu puisses fonder un bet amigdash, que tu puisses à ton tour être un donneur. Parce que si tu es venu dans ce monde que pour prendre, tu n'as pas compris c'est pourquoi tu es venu. Aujourd'hui, tu es venu pour pouvoir prendre des forces, pour pouvoir prendre le maximum de choses, on t'apprend, on te donne un capital pour que tu puisses le redistribuer. C'est ce qu'il a compris ici, Moshe Rabbeinu. Il dit, elle m'a donné ce nom-là. Pourquoi elle m'a donné ce nom? Parce que moi, je ne suis pas que quelqu'un qui a été sauvé, il faut à mon tour que je sauve. Et ça, c'est le tahlil des gens. Et c'est ça la finalité de l'existence de l'homme. Celui qui pense comme ça, c'est quelqu'un qui a compris le sens de l'existence. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu était si proche et si près d'Hachem. Pour te dire que de la même façon que Moshe Rabbeinu, il a fini comme ça, toi aussi tu dois lui ressembler. Toi aussi tu dois aller dans sa direction.
C'est le même mot, Hachem et Moshe.
Comment?
C'est le même mot, là à l'envers.
Hachem et Moshe, c'est le même nom?
Les lettres, pas Moshe.
C'est les mêmes lettres.
Hachem et Moshe.
Ah, Chazak, magnifique. J'avais pas jamais fait attention.
Je voulais
poser
une question, est-ce que Paro... À un moment ou à un autre, savait que c'était un enfant hébreu.
Oui, bien sûr, il savait. Il savait. C'est marqué que quand Bithia elle est rentrée, la fille de Paro, elle est rentrée avec Moshe Rabbeinu dans les mains. C'est marqué qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu caches derrière toi? Elle lui a dit, tu sais très bien ce que je cache derrière moi. Elle lui a dit, donne-moi cet enfant, je vais le tuer. Elle lui a dit, si jamais tu le tues, il faudra d'abord que tu me tues à moi. Elle a caché l'enfant derrière lui, elle a dit, si jamais toi tu es prêt à me tuer à moi, ta propre fille, alors tu pourras tuer Moshe Rabbeinu. Et Paro savait en connaissance de cause que cet enfant-là, il était dans son palais, il a laissé vivre. Pourquoi? Et c'est ce que la Torah nous apprend ici. Que toutes les chagloutes du monde, tous les efforts que tu pourras faire dans ta vie, toutes les choses que tu pourras faire pour aller à contre-courant de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé dans le monde n'y feront rien. Rien ne fera pour aller contre Hachem. Ce qu'Hachem il a décidé, c'est ce qui fera Kayam à la fin. Toi tu crois que tu vas pouvoir aller à contre-courant de ce qu'il a décidé. Tu crois que tu vas pouvoir faire des choses qui vont contre Hachem. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il vient montrer à Paro ici. C'est la volonté du roi qui triomphe. Rabot machashavot belevish. Va'atzat Hachem itakum, nous dit David Ameler dans les Tehilim. Nombreux sont les desseins de l'homme. Mais seule la volonté du roi triomphe. C'est Akadosh Baruch Hu qui triomphe à chaque fois. Et c'est ce qu'il a montré à Paro, il croit que c'est un patron, que c'est lui qui dirige, c'est lui le patron du monde et tout ça, c'est moi qui me suis créé moi-même. C'était un coffer, il disait non, Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui dirige, c'est moi qui dirige. Il dit Habibi, malgré toi, c'est toi qui vas le sauver, c'est toi qui vas l'éduquer, c'est toi qui vas provoquer ta propre tombe, c'est toi qui vas creuser ta propre tombe. C'est quelque chose d'invraisemblable. La Gemara dans Masechet Souka, à la page Nun Gimel Amoud Alef, ça veut dire 53, folio A. Elle nous dit là-bas une histoire extraordinaire qui s'est passée, le traité Souka, avec Shlomo HaMelech. Un jour, Shlomo HaMelech, il avait deux serviteurs, ils étaient très 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 beaux, à tel point que la Torah nous appelle ces gens des Kushim, des gens qui étaient noirs. Parce que quand il y a des gens qui sont très beaux, comme la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, on dit qu'elle était Kushite parce qu'elle était très belle. Quand on ne veut pas mettre le Aïnara sur quelqu'un, on le dit, Wulb Kush Lachor, ou Kahlouch. On l'appelle comme ça noir. Pourquoi on l'appelle noir? Parce qu'on ne veut pas lui mettre l'Aïnara. Il y avait ces deux Kushim là, c'était des gens qui étaient des proches serviteurs de Shlomo HaMelech, c'était les Sofrim de Shlomo, les Meshartim et les Sofrim, c'était les scribes. Ces gens-là, Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech, il est venu, et il a vu le Malach HaMavet qui était très triste. Alors il s'est dit, mais pourquoi le Malach HaMavet il est triste et tout ça, il faut que je lui demande. Shlomo HaMelech, il vient parler avec le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Il lui dit, mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais grise mine aujourd'hui et tout ça? Tu fais la tête de Tchabab et tout ça, c'est pas l'heure et tout. Il lui dit, tu sais pourquoi je suis triste? Parce que ils m'ont dit dans le ciel, Akadosh Baruch Hu m'a nommé Chalière pour pouvoir prendre ces deux enfants et les amener dans un endroit que je ne peux pas te dévoiler et c'est pour ça que je suis si triste. Shlomo HaMelech, il a entendu ça. Tout de suite, il a commencé à avoir peur de ce qui allait arriver à ses enfants et tout ça. Il a appelé deux chédim. C'est des serviteurs, des anges malfaisants, les chédim. Lui, Shlomo HaMelech, ça parlait avec tous les êtres de la création. Il connaissait même le langage des arbres, nous dit la Gemara. Il parlait avec les animaux, avec les arbres, avec tous les êtres. Même les chédim, il a amené deux chédim à lui. Il leur dit, les chédim, venez tout ça, vous allez me prendre. Ces deux enfants-là, vous allez les amener dans un makom qui s'appelle Luz. Dans cet endroit-là, le Malach HaMavet ne peut pas rentrer. Dans le makom qui s'appelle Luz, l'ange de la mort, il ne peut pas rentrer. C'est un endroit qui est comme dans les ambassades et tout ça. Ça s'appelle la protection consulaire et tout ça. La protection consulaire, on peut pas lui ouvrir ses bagages et tout ça. C'est le bagage diplomatique là-bas. C'est un endroit dans lequel le Malach HaMavet ne peut pas être cholet. Ah, il lui a dit très bien et tout ça. Ils les ont pris tout de suite. Ils l'ont amené là-bas. Le lendemain matin, il voulait les mettre à l'abri, Shlomo HaMelech. Le lendemain matin, me dit la Gemara dans Souka, il voit ce Malach HaMavet qui était tout heureux. Il était en train de rigoler. Il lui dit, Malach HaMavet, tout ça, pourquoi tu rigoles? C'est pas ton habitude de rigoler quand les gens ils sont sauvés. D'habitude, tu rigoles quand tu... Il lui dit non, il lui dit sache une chose, Akadosh Baruch Hu m'avait demandé de prendre ces deux-là, de les amener à la porte de Luz et de les tuer là-bas. Il lui dit mais moi, je ne peux pas arriver là-bas à Luz. Je n'ai pas la permission d'arriver là-bas. Et toi quand tu as fait cette chose-là, tu m'as permis d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je les ai attendus à la porte là-bas et je les ai pris, je les ai amenés à Akadosh Baruch Hu. La veille j'étais triste parce que je ne pouvais pas accomplir la mission qu'Akadosh Baruch Hu m'a confiée, parce que je ne peux pas les amener à Luz. Mais toi, tu croyais les sauver, mais finalement, c'est toi qui les as amenés pour que moi, je les prenne là-bas à la porte. Shlomo HaMelech, Hamad Bedarash, nous dit la Gemara. Shlomo HaMelech, il s'est levé et il a fait une dracha devant les autres. Il a dit, moi, je pensais pouvoir aller à contre-courant de ce qu'Hachem, il a prévu. Mais les pieds de l'homme le mènent là où Akadosh Baruch Hu les attend. C'est Hachem Yitbarach, le Melech, c'est Hachem le patron du monde, mes chers amis. C'est lui qui dirige. Et Shlomo HaMelech, il a vu comme ça, ça lui a paru comme une évidence. Il dit, je pensais pouvoir protéger ces enfants-là, mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé à un moment. Il devait mourir à un tel endroit. Moi, je pensais que j'allais les sauver, mais c'est, justement, je n'ai fait que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce Malach HaMavet tout seul, il ne pouvait pas faire cette chose-là. Moi, je les ai pris, je pensais les mettre en sécurité. C'est moi qui les ai livrés au Malach HaMavet. Parce que moi, Melech, il a compris qu'il y a un dirigeant. Lui aussi, a sa grande darga, sa grande puissance, sa grande proximité avec Hachem. Il pensait pouvoir échapper pour le bien, bien sûr. C'est pas comme Paro que lui, il pensait échapper à la volonté d'Hachem pour le mal. Lui, pour le bien, il voulait les sauver. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il lui a montré devant ses yeux. mon cher ami, tu peux rien faire. Tes pieds te mènent là où Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Et on voit Aman Arasha, mes chers amis. Aman Arasha, on s'approche bientôt Bedrat Hashem de Purim. On va bientôt lire la Megillah, Bedrat Hashem, il faut commencer à se préparer. On voit tout ce scénario incroyable et extraordinaire. Comment Akadosh Baruch Hu, il a dirigé le monde d'une façon éblouissante. Et dans le livre, on a rapporté un commentaire du Maharal de Prague qui dit que dans la Megillah, Akadosh Baruch Hu, il n'est jamais cité. Il n'y a jamais, c'est marqué Ameler, toujours il y a des Remazim. Et alors que pendant la fête de Pessah, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il est partout à chaque fois, il dit Hachem, il a fait ci, il a fait ça, il a bouleversé l'ordre du monde et tout ça. Le Maharal de Prague, il nous dit un truc extraordinaire. Il dit, on voit plus la grandeur de l'architecte Hachem dans la fête de Purim qu'on ne la voit dans la fête de Pessah. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand est-ce que tu vois la grandeur d'un architecte? C'est quand il n'a pas besoin d'intervenir dans les plans. C'est quand Miroche, à l'avance, a priori, il avait tout prévu et tout le scénario qui allait se passer, il se déroule comme sur des roulettes sans que tu aies besoin de l'intervention de sa main. Là, tu vois la gadoute et la grandeur d'un architecte. Mais si tu vois que l'architecte, il a besoin de faire des miracles, il a besoin de faire des choses extraordinaires, ça, alors tu te dis, mais cet architecte-là, il n'a pas tout bien conçu, mais après, il a rapproché des éléments rattachés, des pièces rattachées de ça. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu a fait ça, il avait une raison de faire ça. Il devait montrer sa gloire et sa puissance devant tous les peuples, pour Shema Yishmaou Vehiraoun, afin qu'ils aient la crainte et qu'ils aient peur et tout ça. Les gens, ils devaient trembler. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait tout ça. Mais il dit, le Maharal de Prague, il dit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de cet architecte extraordinaire qui est Hachem, le dirigeant du monde, on la voit encore plus à Purim. Où Hachem, on ne le voit jamais intervenir, mais c'est lui qui... Il était en sous-main, il a fait toutes les choses, il a tout prévu pour ne pas qu'il ait besoin d'intervenir. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et on voit comment Aman Arasha, Aman, il a tiré en sort une date. Il voulait exterminer, éradiquer tous les enfants, les personnes âgées, les enfants, les nourrissons, les femmes et les hommes. Il fallait éradiquer tous jusqu'au dernier. Comme Hitler, il marchait mauvais écho, il a voulu exterminer tout le monde. Lui aussi, il voulait exterminer tous les Bnei Israël. Il a pensé tirer au sort une date qui allait porter malheur et porter préjudice au Bnei Israël. Il a préparé une potence pour pouvoir pendre Mordechai. Il a préparé un cheval pour pouvoir faire en sorte que Mordechai, il va le traîner dans la rue pour dire « Hourra, vive le roi » et tout ça. Il s'est levé de bonne heure pour aller voir le roi Assuérus pour lui dire que les Bnei Israël devaient mourir. Et tout s'est retourné en un instant. Les Bnei Israël, ils ont fait monter leur tfila dans le ciel. Elles ont inversé les xérotes, ils ont fixé 3 jours de jeûne où ils ont prié, ils ont supplié à Kadosh Baruch Hu, Itale Shemolad. Et à ce moment-là, toutes les xérotes, elles se sont inversées. Et c'est sur cette potence qu'il a préparé, qu'il a été pendu, il s'est levé de bonheur, il a été pendu de bonheur. Il a voulu faire en sorte d'aller contre ce roi Mordechai et de faire en sorte de le bafouer son kavod. C'est lui qui l'a traîné dans toutes les rues de la ville. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il a montré comment c'est lui qui dirige le monde. Tu crois à Assuérus, tu crois toi à Assuérus et à Aman que c'est vous qui dirigez, c'est vous qui pouvez faire quelque chose. C'est Hachem Itbarach, le patron et le Melech Haolam. C'est lui qui dirige tout. C'est lui le patron, Rabotai, c'est le seul patron du monde. Aman nous l'a montré. Et Titus Arasha aussi nous dit l'Agmara. L'Agmara dans Masechet Gittin à la page 56, folio B, nous rapporte une histoire qui s'est passée à l'époque de Titus. Titus Arasha, c'était un empereur romain qui était très très mauvais. Il a détruit le Beth Amikdash. Titus, il a défié Akadosh Baruch Hu. Il s'est mis devant Hachem, il a dit, maître de l'univers, il lui dit, c'est toi qui te fais appeler le puissant et le glorieux et celui à qui rien ne résiste. Il lui dit, je vais te montrer une chose. Je sais que toi, tu es redoutable quand tu te bats avec les êtres dans les eaux. Mais quand tu te bats sur la terre ferme, moi, je suis prêt à te défier et moi, je suis prêt à me battre contre toi. Il dit, parce que quand tu as battu Pharaon, tu l'as battu avec les eaux du Nil qui se sont refermées sur les eaux de la mer Rouge et tout ça. Quand tu t'es battu avec Sisron, lui aussi tu l'as battu dans les eaux. Il dit, mais viens toi maître de l'univers, je t'attends sur la terre ferme et je vais me mesurer à toi et tu verras si jamais tu pourras faire quelque chose contre moi. Akadosh Baruch Hu, il a rigolé. Il a dit, petit moustique que tu es. Il dit, je vais t'envoyer la bria la plus cala du monde, la créature la plus légère qui existe dans cet univers. C'est le moustique que la Gemara dans Masechet Gittin nous dit qu'elle n'a pas d'appareil digestif. Elle ingère directement le sang et tout ça, et ça passe pas dans son appareil digestif. Il a dit, c'est pour ça que c'est la bria la plus cala. Toi, petit moustique, je vais pas t'envoyer un être fort dans la terre. Je vais t'envoyer la plus petite bria, un moustique comme toi, je vais l'envoyer et il va s'occuper de toi. Alors le moustique, il est arrivé là-bas. il a commencé à faire des loopings et tout ça, il est passé entre les jambes, il lui a fait des pieds de nez et tout ça, il a fait toutes sortes de choses et tout, jusqu'à ce qu'il est rentré dans son nez. Quand il est rentré dans son nez, il s'est logé dans son cerveau. Et à ce moment-là, nous dit la Gemara que pendant 7 années, il a commencé à lui faire un tapage nocturne et diurne, jusqu'à ce que lui, il était obligé d'appeler des gens qui venaient faire, des gens du Hamistral qui venaient faire des coups de marteau pour voiler le bruit qu'il avait. Il lui dit que qu'est-ce que c'est la différence, que ce soit gnostique ou que ce soit... Les fachot, au moins que ce ne soit pas Kadosh Baruch Hu qui m'inflige cette chose-là, que cette peine-là que j'endure, c'est la peine de l'homme. Mais que ce ne soit pas Kadosh Baruch Hu qui m'inflige cette chose. Il ne voulait pas admettre. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la tannée. Et à la fin, il est mort. On a ouvert sa tête, nous dit la Gemara et les Chazal, on a trouvé un oiseau très très grand, de la taille d'un oiseau dans son cerveau. Il avait le bec de cuivre et les ongles en barzel en fer. Et voilà qu'on a trouvé cet petit oiseau-là, ce petit moustique, il était devenu un oiseau et il est niftar, celui-là, ce mahboul. Et il dit, tu crois que tu peux résister à Akadosh Baruch Hu? Tu crois que tu peux faire quelque chose contre Hachem? C'est Hachem le patron de l'univers, toi tu oses défier Hachem Idbarach. Hachem ne va pas venir se mesurer à toi avec des grandes créations, avec la créature la plus insignifiante de la Bria, la plus petite créature de la création, c'est elle qui va venir et qui va t'amener ta perte, qui va te mener à ta perte, pour que tu comprennes que c'est Hachem Idbarach le dirigeant du monde. La Torah nous dit, c'est marqué dans le verset, dans le début de Parashat Shemot, chapitre 1, verset 10, que Paro il a dit aux gens de son peuple, il leur a dit, Ava Nitrakemalo. Il a dit, venez, on va agir avec sagesse contre lui. Et on se demande, ça veut dire quoi contre lui? On sait qu'il voulait agir avec sagesse contre les Bnéstal, il voulait tuer tous les nouveau-nés de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tous les nouveau-nés, il fallait les tuer. Et le Midrash demande Nishéla. Demande le Midrash, pourquoi on dit Ava Nitrakemlo? Nitrakemalaem. Venez, on va agir avec sagesse contre eux, pas contre lui. Il n'y a pas qu'un seul membre du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Venez agissant avec sagesse contre lui. Et nous dit, le peuple, c'est ce que Rashi répond, il répond Rashi que c'est le peuple. Mais le Midrash nous dit que ce n'est pas ça ce qu'il a dit. Ava Nitrakema Nemoshian Shelaem. Venez, on va agir avec sagesse contre le libérateur et le sauveur du Ham Israël que c'est Akadosh Baruch Hu. On va faire des combines contre Hachem Idbarach pour faire en sorte que les Bnei Israël vont tous mourir par là. Il a dit, il faut qu'on trouve une solution pour les tuer tous jusqu'au dernier. Il dit, ah bon, tu veux les tuer jusqu'au dernier, il n'y a pas de problème, qu'à cela ne tienne. Comment tu vas faire pour les tuer? Ils ont commencé à penser au stratagème du génocide qu'ils voulaient leur faire subir au Ham Israël, Rahman et Nissan. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va essayer de les tuer avec le feu. Il a dit, mais on connaît la processus. Qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ça veut dire, comment toi tu traites les autres, Akadosh Baruch Hu te traite. Et c'est marqué dans la Torah, que si jamais toi, tu veux brûler les Bnei Israël, tu seras brûlé. C'est marqué dans un verset, que si avec toi tu veux brûler les Bnei Israël, tu seras brûlé. Il dit, on ne peut pas les brûler. Il dit, peut-être on va les passer au fil de l'épée. Avec une épée, on peut les tuer. Après, il a vu un verset dans la Torah, c'était marqué, Vechol Bashar Vecherev Yavou. C'est marqué, la chair des Goïms, elle sera passée au fil de l'épée si jamais ils s'en prennent aux Bnei Israël. Il a dit, donc on ne peut pas tuer les Bnei Israël avec l'épée, sinon nous aussi on va être passé au fil de l'épée. Il a commencé à réfléchir, après il a dit, voilà, je sais comment on peut les tuer. On peut les tuer avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse au Bnei Israël. À la paracha de Noach, quand Hachem il a amené le Maboul, le déluge dans le monde, il a dit, plus jamais le monde ne sera enseveli par le Maboul, par les eaux destructrices de ce cataclysme dans le monde. Alors lui, il s'est dit, mais puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a promis que plus jamais il ferait sévir sur les Bnei Israël, ce cataclysme, il s'est dit, ben, c'est la meilleure façon pour nous de pouvoir les tuer. On va les tuer pour ne pas se venger, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse. Mais ce Mzrob, là, ce Marboul, il n'avait pas compris quelque chose. Il n'avait pas compris qu'Akadosh Baruch Hu, quand il leur a dit qu'il ne pouvait pas s'en prendre à eux par un cataclysme qui était le Maboul, qui était un déluge dans le monde entier. C'est sur le monde entier, mais sur un État-nation, ça, il pouvait le faire, Akadosh Baruch Hu. Parce que l'alliance qu'il avait passée avec l'arc-en-ciel, qu'on sait que chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu aurait dû envoyer le déluge. Mais parce qu'il a fait cette promesse, alors il ne peut pas détruire le monde. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder cet arc-en-ciel, nous dit la Gemara, dans ma Maseret Brachot. Parce que cet arc-en-ciel, c'est quoi? C'est comme un arc qui est tourné vers Hachem, Kaviachol, qu'on a envoyé des flèches pour énerver Akadosh Baruch Hu. Comme c'était le cas dans cette génération où le monde il a été détruit. Qu'il y avait du Hamas, il y avait de la violence, il y avait de la Vodazara, il y avait des mauvaises mœurs, il y avait de la dépravation. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, chaque fois, normalement, j'aurais dû détruire. Donc lui, il s'est dit quoi? On va le tuer avec l'eau. Il dit, mais il ne savait pas qu'Akadosh Baruch Hu, il pouvait détruire une seule nation avec l'eau. Et il dit, c'est ce qui lui est arrivé. Il a dit, toi, tu croyais pouvoir faire ce que tu voulais contre Hachem. Tu croyais pouvoir faire quelque chose contre lui. Tu croyais pouvoir tuer les Bnei Israël d'une façon permise, Kaviachol. Mais sache que c'est par cette eau-là que tu as voulu les tuer, c'est par cette eau-là que tu seras enseveli. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, Rabotai. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et nous dit la Gemara pour conclure dans cette affaire-là, dans la casserole que tu réchauffes, c'est là-bas que tu seras cuit. Sache une chose, c'est si jamais toi tu veux faire quelque chose de mauvais, de négatif contre quelqu'un, c'est ce qu'on appelle en français l'arroseur arrosé. Dis-toi, t'as voulu arroser quelqu'un par une mauvaise façon, sache que tu seras arrosé par cette façon. Ne crois pas que le Olam il est efker, que le monde il est livré à l'abandon, que tu peux faire ce que tu veux, que tu peux passer outre la providence d'Hachem. Toi tu crois que tu viens ici, tu fais ce que tu as envie de faire, il n'y a pas. C'est Hachem Yitbarach, le Melech Haolam, le Mashgiach du monde. C'est lui le patron de l'univers, Rabotai. Et le Rav Shlomo Lorantz, qui était un des grands membres de la Knesset en Israël, c'est un des grands rabbanim de la Yeshiva de Kol Torah. Il a fait beaucoup pour la Torah et beaucoup pour les institutions de Torah depuis la fondation, depuis la création de l'État et tout ça. Il était présent. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est mystère il y a quelques mois. Il a dit, une fois, il est venu voir des membres influents de l'État d'Israël et tout ça. Il est parti voir Ben Gurion, Shem Rejaï Nirkan et Moshe Dayan. Il est venu les voir à ces deux-là. Il leur a dit, je voudrais vous demander une question. Il lui a dit, oui, on vous écoute et tout ça. Il lui dit, est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre mandat? Ils avaient terminé leur mandat, les deux, ils avaient terminé leur mandat. Il est venu les questionner. Moshe Dayan était ministre de la sécurité, de la défense. Et Ben Gurion, bien sûr, il était premier ministre. Alors il leur a dit, est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre mandat et tout ça? Il a dit, non, on regrette rien de ce qu'on a fait. Il dit, c'est bizarre, normalement toujours quelqu'un il regrette un peu, il fait tout va, il voit qu'il a fait des choses mauvaises. Eux, ils voulaient pas se remettre en question. Il a dit, finalement, si je regrette une seule chose. Il a dit, ah bon, qu'est-ce que tu regrettes? Il a dit, je regrette une chose, c'est d'avoir libéré les Bachouré Yeshivot et de ne pas les avoir forcés à aller à l'armée. Et d'avoir fait en sorte qu'eux, ils puissent rester à la Yeshiva pour étudier la Torah. Je regrette cette chose-là. Alors le Rav Shlomo Lorantz, il a dit, ah bon, tu regrettes cette chose-là? Il a dit, j'ai une dernière question à te soumettre. Je voudrais savoir une chose, pourquoi tu n'as pas regretté en temps voulu pendant que tu avais encore la possibilité de pouvoir les envoyer? Maintenant que tu as fini ton mandat, ça ne sert à rien de regretter. Mais pourquoi au moment où tu avais dans ta main de les envoyer là-bas, pourquoi t'as pas regretté à ce moment-là? Ils lui ont dit, je suis désolé, mais cette question, on ne sait pas répondre à ça. C'est trop mystique pour nous. Comment ça maintenant? Pourquoi maintenant je veux et pourquoi avant je ne voulais pas? Là, il a dit, moi je vais te répondre une chose. Il y a mis une phrase dans Michelet. La phrase dans Michelet, elle dit, regardez bien ce que c'est marqué. Et ça va avec tout ce qu'on vient de dire, Rabotai. C'est merveilleux. Je regrette qu'il n'y a pas plus de frères qui peuvent profiter de cette session, mais besoin d'agir sur Internet. www.shiurim.org. Notre ami Yosef Abou, ici présent, il pourra le mettre en ligne, Bezrat Hashem, ou www.toradelumière, c'est le nouveau site qu'on a mis en place. Ils vont pouvoir écouter la rediffusion, comme on dit chez nous. Regardez ce qu'il lui a répondu. Il a dit, tu sais pourquoi, hein, tu n'as pas pu regretter pendant que tu avais encore la force, parce que c'est marqué dans Michelet, « Lev melachim vesarim v'yad amelech, nechol asher yarpot shiatenu. » Il dit, le cœur des ministres et des rois, il est dans la main de Hakadosh Baruch Hu. Et dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide de faire, de les faire dévier, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait faire. Il lui dit, Mzrob que tu es, est-ce que tu crois que toi tu avais la possibilité de faire quelque chose par ton propre libre arbitre ou parce que tu avais décidé de faire? C'est Hachem Yitbarach qui t'a mis dans la tête de ne pas les libérer. Maintenant que tu n'es plus dangereux, alors il te laisse la liberté de penser. Parce que ton libre arbitre, il te l'enlève. Quand toi tu peux faire des catastrophes, mais maintenant que toi tu as fini de faire tes catastrophes, le libre arbitre, il te le rend, et si toi t'as envie de regretter la seule mitzvah que tu as fait dans ta vie. Parce que c'est marqué, regardez, Rabotai, c'est marqué un chat. Comment? Non. Ben, je vais te dire quelque chose que non. Ben non, regarde, il n'aura pas le scout par rapport à ça. Regardez bien. C'est marqué, la Torah, elle nous explique, chaque soir dans la prière de Arbit, on lit une phrase magnifique, c'est marqué, que le Yetzerara lefanenu mulacharenu. Vous voyez comment on dit tous les jours cette chose-là, que l'Etzara il est derrière nous, et l'Etzara il est devant nous. Ça veut dire quoi qu'il est devant nous et derrière nous? L'Etzara il est devant toi mon frère, pourquoi? Parce que l'Etzara il t'empêche de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme je vous avais dit souvent. C'est comme si un ours polaire il était venu se mettre sur toi le matin quand t'as envie d'aller à la Beit HaKnesset. Là-bas cet ours polaire, là-bas ce bon vigeon, il t'a réchauffé avec ta couverture là-bas, à l'ancienne, et toi tu dors là-bas, à la Kitcham Souya dans la plage. Tu t'es posé comme ça, en train de dormir, t'as cet ours polaire qui s'est levé. Ça s'appelle le Yetzera qui est devant toi, ça. C'est quoi le Yetzera qui est devant toi? Il se met devant toi pour t'empêcher d'accomplir la volonté d'Hachem Yitbarach. Il dit, ça c'est le premier Yetzera. Mais il s'arrête pas là. Une fois que tu as réussi à te battre contre ce Yetzera, tu as réussi à le détourner, à le dévier de ta trajectoire, il va se mettre derrière toi. C'est quoi derrière toi? Tu vas aller à la synagogue, et toi, tu as pris ton jaguar et tout ça, soit tu as le jaguar, tu t'assois sur lui, ou soit tu as un vrai jaguar et tout ça, l'ancienne. Quand tu arrives avec cette jaguar, quand tu sors de la synagogue, il y a un type qui a reculé un peu trop, il t'a cassé le phare, tu vas devoir payer la réparation à 6 000 €. Alors là, à ce moment-là, tu vas commencer à te dire, et Bono Shalom, maître de l'univers, il dit, si jamais j'étais resté faire ma prière chez moi à la maison, j'aurais prié là-bas, très tard, là-bas, à 10h30 du matin, et tout ça, Beyachid, tout seul, sans la collectivité, ma jaguar, elle aurait été intacte, et tout ça, j'aurais pas eu de problème. Maintenant que je suis allé, j'ai fait mes sirout nefesh, j'ai fait sortir l'ours polaire qui était sur moi, je me suis levé à 7h à la Shbach, là-bas, je suis allé à la Beta Knesset, j'ai fait ma prière, et maintenant, la voiture, elle a reculé, elle m'a déchiré, pourquoi? Parce que j'ai fait cette mitzvah. Je regrette cette chose-là. Rabotai, celui qui regrette qu'il n'a pas fait la mitzvah, elle nous dit la Torah de la même façon que la tshuva, c'est quoi? C'est de regretter les averot. Et par le regret que tu fais, l'engagement de ne plus recommencer, à Kadosh Baruch Hu, il efface les gamrés, cette chose-là, et tu repars avec une ardoise vierge devant Borei Olam. De la même façon pour les mitzvot, cette même chose qui a la faculté d'effacer les averot, elle a la faculté également d'effacer les mitzvot. Tu as regretté la mitzvah que tu as fait, c'est comme si tu ne l'avais pas fait, Habibi. Dommage pour toi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça à ces deux-là, à Moshe Dayan et à Ben Gurion, qu'ils ont regretté d'avoir libéré les Psalmides des Chachamim? Parce que eux, ils ne voulaient pas le faire, mais à Kadosh Baruch Hu, comme il avait leur cœur dans la main, c'est lui qui les a contraints et obligés à faire cette chose-là. Et on se demande une question, Moshe Dayan, il n'avait pas du tout de Chush Rouhani, il n'avait pas du tout d'accroche spirituelle, il avait rien. Et quand ils sont venus lui demander, ils lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit, depuis les générations et des générations, le peuple d'Israël, il a tenu grâce aux enfants qui étudient la Torah. Il dit, moi, je ne veux pas être le premier à être celui qui va déraciner les yeshivas du Ham Israël. Il dit, mais ce n'est pas des paroles que tu peux entendre dans la bouche d'un homme qui est pas spirituel. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui flash ses paroles. C'est Hashem Yitbarak qui a son cœur dans la main. Lev melachim vesarim veyad amelech bechol asher yarpot yatenu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a le cœur des seigneurs à Botaï, le cœur des présidents. Les mondes y croient, voilà, c'est Obama qui dirige, c'est Bush, c'est l'autre là-bas, c'est celui-là, c'est personne, c'est Hashem Yitbarak. C'est lui qui dirige tout. Le gars, il croit, voilà, la politique, il y a Obama qui est au passage. Alors, on va commencer à avoir peur parce qu'il y a une couleur un peu bizarre. L'autre, il est bouche, il est gentil, et ça, c'est la ministre. On n'a pas peur. C'est de la coffre-coudre, Rabotai, c'est de l'hérésie. Tu comprends pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui les dirige, cela. Alors, il lui a dit, quand toi, tu étais en phase de diriger tout le Ham Israël, tu étais dans la main d'Hachem. Mais maintenant que toi, tu es plus entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce que tu peux plus mettre en danger le klal. Maintenant, ton Ibrahim, tu l'as retrouvé. Libre à toi d'assumer la chose et d'être fier de ce que tu as fait, de laisser la Torah continue à se répandre dans l'âme Israël, et que cette Torah, c'est elle qui protège l'âme Israël. Ou libre à toi de regretter le seul trou que tu avais.
Maintenant, pour les Baroulis, on dirait qu'il y a plus de religieux.
Il y a Baruch Hashem, la Torah, elle se répand beaucoup.
Toujours pas les Baroulis ici, là.
Où ça?
L'armée,
non. Le rov des yeshivot qui sont dites classiques, les rovs des yeshivot classiques, ils pensent qu'eux, ils font partie de l'armée de l'air. On fait partie de l'armée de l'air, nous. L'armée d'Hachem Yitbarak. Il y en a certains qui vont à l'armée et tout ça, mais les grands maîtres de la génération, ils ont dit, soit tu fais partie de l'armée, t'es au front, et donc nous, on doit les protéger en priant pour eux, soit tu fais partie de l'armée de terre, donc tu vas au combat, ou soit tu fais partie de l'armée de l'air, que toi tu pries pour les autres et tu fais l'étude et tu fais mes sirout nefesh et tu te lèves à des heures plus tôt que eux et tu te couches à des heures plus tard que eux et tu, sans répit, tu étudies la Torah pour pouvoir protéger. Parce que nous, les Bnei Israël, on a la Emouna que c'est pas notre force, Korhiv et Otsemiadi, ça c'est pour les peuples. A Kol Kol Yaakov et Adaim Yedesav. La voix, c'est la voix de Yaakov. Les Tfilot et la Torah, c'est celle qui fait protéger l'âme Israël dans le monde. Les Yadaim, à Yadaim Yedesav. Les mains, c'est les mains des sables. La force, c'est le corps. Ça, c'est pour les nations. Ils ont la bombe atomique, les trucs et tout ça. Ils croient qu'ils font quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu, le Melech Haolam. Je vais vous parler, Bedrat Hashem, ce soir de ce qu'on a dit qu'Hachem, c'est le patron. Vous savez qu'il y a eu une catastrophe à Haïti. Je sais, c'est pour ça, comme je vous ai entendu, j'ai voulu vous faire un petit écho. Ah, je vous entends, vous inquiétez pas. J'ai mon oreille qui traînait par là. Regardez, Rabotai, c'est marqué ici dans la... Ce massacre qui s'est passé à Haïti, ce grand cataclysme, ce séisme qui a entraîné la mort de plus de 100 000 personnes. J'ai étudié le Chumash Rashi, comme chaque semaine, au Hachem, j'ai eu le mérite d'étudier le Chumash Rashi. Je vous invite à chacun à faire de même. Il y a des Chumash qui sont traduits en français. Vous pouvez les acheter dans les librairies. C'est 7 couleurs, ils ont chacun une couleur différente. Il faut étudier chaque semaine la Torah, le commentaire de la Torah avec Rashi. Celui qui étudie ça, il a des armes dans sa main qui sont extraordinaires. Ça prend chaque jour, on peut lire une montée, ça prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Si vous sortez avec ça, vous aurez un bagage pour toute la vie. Et moi, en étudiant Rashi, je me suis dit que la paracha, c'était pendant Vayera qu'il y a eu cette chose-là. Et la paracha, elle rapporte le séisme. Comme on sait sur le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous dit, on sait que lui, il étudiait la Torah, il sortait jamais de chez lui, il était barricadé dans sa maison, et les gens, ils rapportent qu'il était au courant de la spiritualité qu'il y avait dans le monde entier. Un jour, il y avait quelque chose qui venait de se passer, tout ça, ils sont rentrés chez lui et tout ça, donc il n'avait pas pu entendre de quelqu'un. Il n'avait pas Canal+, ni le canal satellite, ni le MSN, ni Messenger, ni Facebook, ni rien du tout. Ni le transistor, le téléphone arabe, il n'y avait rien. Ils sont venus et lui ont dit tout ça, il dit, vous savez ce qui s'est passé? Il dit, oui, voilà quel paracha on est. Il a commencé à voir dans les versets, il se passe telle et telle chose au Bangladesh, telle et telle chose ici, telle et telle chose ici. Il a commencé à leur dire la liste de tout ce qui se passait dans le monde. Ils sont devenus fous, les gens. Comment c'est possible? Parce que c'est parce qu'à Kadosh Boukou, Istakel, Boroy, Tavé, Boralma, Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Le monde n'est qu'une résultante de la Torah. Quelqu'un qui sait lire entre les lignes et qui sait étudier profondément la science et la puissance de la Torah, il est capable de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est ce qu'il était capable de savoir, lui. Il connaissait tout ce qui se passait, le Gaon de Vilna. Et dans la paracha de cette semaine, on voit que ce séisme-là, il était prévu. Regardez ce qui est marqué ici. Paracha Vayera, chapitre 7, verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Regardez le commentaire de Rashi sur place. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il libère les Bnei Israël. On sait que Pharaon, les 5 premières fois, c'est lui qui s'est endurci son cœur. Mais après que les 5 premières fois, il a endurci son cœur, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a endurci le cœur. Pourquoi? Pour montrer la majesté d'Hachem et montrer les makot, les coups redoutables et prodigieux, pour que les gens ils aient la crainte d'Hachem Yitbarach. Donc il leur a donné des coups comme il faut. Mais au début, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je vais leur renforcer le cœur. À quoi ça sert de renforcer le cœur? Regardez ce qu'il dit Rashi. Parce qu'il a résisté avec méchanceté, donc les 5 premières plaies, et qu'il s'est dressé contre moi, je vais endurcir son cœur. Il est bien connu devant moi que les nations idolâtres ne trouvent aucune satisfaction à mettre tout leur cœur en faire tshuva. Ils veulent pas revenir à Hachem. Aussi est-il bon pour moi que son cœur s'endurcisse, de manière à ce que je multiplie mes signes contre lui, et alors, vous les Bnei Israël, vous reconnaîtrez ma puissance. Telle est en effet la manière d'agir d'Akadosh Baruch Hu. Il amène des châtiments sur les nations, afin qu'Israël entende et craigne, ainsi qu'il est dit dans Tsefania, dans un des livres de la Torah, au chapitre 3, versets 6 et 7. J'ai anéanti les nations, leurs tours d'angle sont en ruine, c'est l'effondrement du palais là-bas de présidentiel et de toutes les maisons, plus de la moitié ou des trois quarts des maisons, elles ont été anéanties. J'ai dit, aussi me craindras-tu et en tireras-tu une leçon. Comme le dit la Gemara dans Maseret Yevamot, à la page 63, folio A. Alors vous comprenez, mes chers amis, que, comme l'a dit la Gemara dans Maseret Brachot et dans d'autres endroits, haine pour un autre Balaolam et là Bishvil Israël. Les malheurs et les cataclysmes du monde ne viennent dans le monde que pour Israël, pour que les Bnei Israël y tirent une leçon de ce qui est arrivé aux nations et aux peuples et que les gens y se réveillent. Comme il avait dit le Chafetz Chaim une fois, quand il y a eu un tremblement de terre qui a été redoutable au Japon, il leur a dit, mes chers amis, il faut qu'on tire du mouchard de ça parce que c'est à nous que ça a été adressé, ce message-là. Il a frappé à Kadosh beaucoup les nations, mais c'est Bnei Israël qui veut réveiller. Bien sûr que les nations aussi, ils ont fait des choses qui sont abominables, et c'est pour ça qu'ils payent. Mais aussi les Bnei Israël, si jamais il y a eu ce cataclysme, Shema Tikar, Shema Ishmeu Veiraon, afin que vous voyez, que vous craignez cette chose-là, que vous vous réveillez, que vous preniez conscience de cette chose. Et on voit, Rabotai, ce peuple, il a été frappé. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, il est sonné Zima. Hachem, il a une aberration et une haine profonde contre les relations interdites. Et c'est un endroit dans lequel ils sont stouffés Zima là-bas. Il y a des mœurs très très dépravées. À Kadosh Baruch Hu, il est en aberration également la corruption. Et j'ai entendu par des amis à moi que c'est un endroit qui est des plus pervertis dans la corruption. Il n'y a pas du tout de justice. À Kadosh Baruch Hu, quand il voit des choses pareilles, il fait sévir sa justice divine dans le monde. De la même façon aussi sur l'Avodah Zarah. C'est marqué que pendant le Maboul, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a eu le Maboul, d'où on apprend tout ça? On n'est pas des prophètes. Ce qui s'est passé, c'est pour que tu puisses prendre une leçon et que tu saches qu'à chaque fois qu'il va se passer des choses, tu reviennes à ce que tu as vécu par le passé pour faire un raisonnement par analogie, pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Le déluge, il a été détruit parce qu'il y avait du vol avec violence, c'est la corruption, de la Avodah Zarah et des relations interdites, de l'idolâtrie et des relations interdites. De la même façon, le tsunami, Rabotai, vous savez que ça a eu lieu en Indonésie. L'Indonésie, c'est le pays le plus dépravé. C'est l'endroit dans lequel il y a du tourisme sexuel. Hein? C'est où? C'était en Indonésie aussi. Ça a touché aussi l'Indonésie, je crois. Ça a touché l'Indonésie, la Thaïlande, c'était dans tous ces endroits-là, en tout cas, dans lesquels il y a beaucoup de répansion de... Il y a énormément là-bas de polythéisme. Il y a beaucoup de polythéisme, il y a beaucoup de bouddhisme, il y a beaucoup de choses qui sont à contre-courant. Il y a le tourisme sexuel, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de corruption. Ces endroits-là, c'est des endroits qui sont propices à recevoir des cataclysmes. Pourquoi ? Pour que les gens ils se réveillent. Pour que les gens ils prennent conscience, ils prennent du moussard de ça. Mais on peut se demander une question, mon maître Rabbi Emmanuel Toldano, Shebadele Chaim Tovim, Hachem il le protège, Bezrat Hachem. Il m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit, si toutes ces choses-là, elles visent à faire en sorte que les Bnei Israël ils prennent du moussard et qu'ils tremblent de ce qui se passe. Il dit alors comment ça se fait que les Bnei Israël, quand ils voient cette chose-là, on ne tremble pas. Nous, on n'a pas tremblé vraiment de ce qui se passe là-bas. On ne se sent pas très concerné par ça. Pourtant, à Kadosh Baruch Hu, c'est à toi qu'il envoie le message. C'est toi qui l'appelle. En frappant cela, c'est toi qui veux remettre en question. Pourquoi tu ne te remets pas en cause ? Rabotai, c'est parce qu'on n'a pas la conscience de la providence d'Hachem. On n'a pas conscience que c'est à Kadosh Baruch Hu, le patron du monde, et c'est pour ça qu'on est venu ce soir se renforcer. À Kadosh Baruch Hu, c'est le patron, mais nous, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est un hasard. C'est un hasard qui s'est produit là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va se dire à ce moment-là ?
Mais les Israéliens qui sont allés là-bas ont tiré une grande gloire.
Oui, bien sûr, ouais, je suis au courant qu'il y avait les gens des Akas là-bas et tout ça. Mais en tout cas, comment ça se fait que nous, quand on voit ça, on ne commence pas à trembler? Comment ça se fait qu'on ne commence pas à trembler, qu'on ne commence pas à avoir peur de tout ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Regardez ce qu'on se dit. On se dit, en fait, ce qui s'est passé là-bas, tout dépend du hasard. C'est pas parce que c'est arrivé là-bas que ça va arriver ici. Et on se dit, ça peut arriver ici sans que ça arrive là-bas. Donc celui qui se dit une chose là, il voit qu'il n'a aucune espèce de relation avec l'événement. Et puisqu'il n'a aucune espèce de relation avec l'événement, il ne va pas se remettre en question, il ne va pas commencer à trembler. Je dis, mais non, c'est du hasard. C'est arrivé là-bas, ça aurait pu arriver chez nous sans que ça arrive là-bas. Et ça aurait pu arriver là-bas sans que ça arrive chez nous. Donc qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Ça ne nous concerne pas cette chose-là. Et là, mes chers amis, si on savait que c'était le même directeur qui a frappé là-bas, qui a puni là-bas, qui peut nous punir à nous, combien on tremblerait? Combien on prendrait conscience de la majesté de Hachem Yitbarach? Combien on se remettrait en question? On ferait attention à voir quelle est notre relation avec les relations interdites, avec une petite sorte d'idolâtrie, comme on a dit tout à l'heure, celui qui regarde les informations et qui commence à trembler devant les nouveaux gens qui passent au pouvoir, et on se dit, voilà, avec celui-là, on est en sécurité ou pas. À Bouteille, on a tous une partie de ça. Combien on doit faire attention à la corruption? C'est des choses que l'homme, il doit avoir. Et le Chafetz Chaim, il nous dit dans la paracha, dans le Shmirat HaLashon d'aujourd'hui, nous dit le Chafetz Chaim, c'est le Rav Samuel, le Rosh Yeshiva de Keter Shlomo, qui m'a rapporté ce matin, je parlais avec lui au téléphone, et il m'a dit, moi aussi j'ai trouvé le Rashi comme toi, et tout ça, j'ai dit le même Rashi que toi, parce que j'ai dit un peu ce Shiur Shabbat, et il m'a dit, j'ai vu un autre Chafetz Chaim, il explique aussi quelque chose d'autre. C'est marqué à Rabotai que, comment ça se fait qu'il y a des tremblements de terre dans le monde. Une Gemara dans Maseret Brachot au Perek 9 nous enseigne que Akadosh Baruch Hu, quand il voit le Matzav Rouhani, la situation spirituelle de son peuple, de ses enfants qu'il a créés, comment ils se sont pervertis, comment ils sont tombés, comment ils sont arrivés bas, comment ils sont tombés dans les relations interdites, dans l'idolâtrie, dans les mauvaises mœurs, dans la corruption. C'est marrant que Kadosh Baruch Hu, il verse des larmes sur ses enfants. Et parfois, il y a une larme d'Hachem qui tombe dans l'océan. Et quand cette larme, elle tombe dans l'océan, c'est ce qui provoque les tremblements de terre. Comme ça nous dit la Gemara dans Maseret Brachot. Et on sait que ces cataclysmes-là, le tsunami ou celui-là, ils sont nés de l'océan. C'est un tremblement de terre qui arrive dans l'océan. Comme ça, ils ont vu les spécialistes, pourtant ils ne connaissent pas la Gemara à mon avis. Les spécialistes, ils ont vu que ça vient de l'océan, il y a un tremblement de terre dans l'océan, il y a des vagues qui se forment et après il y a des cataclysmes naturels et des catastrophes naturelles qui se passent partout. Comment ça se fait? Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il verse des larmes sur ça. Hachem, il est triste, il voit la situation de ses enfants, il voit comment ce qu'il a créé, comment on s'est perverti, comment on s'est éloigné du but et du tahlit que l'homme il a dans ce monde. Et Hachem, quand il voit ça, il verse une larme. Et c'est ce qui provoque ces catastrophes naturelles. Et il nous dit le Chafetz Chaim, quand on voit une grande catastrophe qui se passe, il ramène le Zohar dans Parashat Pekoudé, il dit quand quelqu'un il voit qu'il y a une catastrophe qui s'est passée, il doit savoir une chose, c'est que c'est à cause du Lashon Hara qu'on a dit. Quelqu'un qui a dit du Lashon Hara, il réveille dans le sphère céleste un serpent accusateur. Ce serpent il s'appelle Sirsera, je crois. C'est un serpent accusateur qui vient et qui vient... Quand ils voient que les Bnei Israël ils s'accusent entre eux et qu'ils font du Lashon Hara et qu'ils font de la médisance les uns envers les autres, alors il dit, ah ben puisque vous, à Kadosh Baruch Hu, quand le Yetzer Hara ou le Malach HaMavet ou ce Sisera, ce Sirsera, qui est un serpent accusateur, il vient devant Hachem, Et celui-là, il veut rapporter le mal que les Bnei Israël ont fait. Il regarde, il lui dit, et toi le serpent. Il dit, les Bnei Israël, ils ne se sont pas plaints les uns des autres. Il dit, si les Bnei Israël, ils ne se plaignent pas les uns des autres, c'est qu'ils ne racontent pas de médisance, je ne peux pas les accuser. Ça veut dire que quelqu'un, il nous dit, le Chafetz Chaim, quand il dit du Lashon Hara, il se rend coupable de sceller le décret d'une personne. Parce que, il faut que l'acte soit contresigné dans le ciel. Il faut que d'un côté, le serpent, il vienne rapporter la chose, et que de l'autre côté, ce serpent, il puisse dire, voilà, regarde, cette parole que je suis en train de dire, elle a été corroborée par quelqu'un dans le sol, et à cause de cette parole-là, on peut faire venir des tsarot sur le Am Yisrael et réveiller la Midat Hadin. Et il nous dit, la Midat Hadin, le jugement de rigueur, il se réveille quand ce serpent-là, il a eu la nourriture des Bnei Israël qui ont médit les uns des autres, et à ce moment-là, la Midat Hadin, elle se déchaîne dans le monde, et c'est à ce moment-là qu'il y a des grandes catastrophes naturelles. Donc, quand on voit cette grande catastrophe, puisque nos Chachamim nous disent dans Tsefania, qu'on doit se remettre en question, on doit voir quelle est notre shayichut, notre relation avec le Lashon Hara. Est-ce qu'on est zahir, est-ce qu'on fait attention à comment on parle avec nos épouses, avec nos amis, avec nos maîtres, avec nos parents, avec nos amis? Est-ce qu'on fait attention où notre oreille elle traîne? Est-ce qu'on fait attention à tout ce qu'on fait dans notre vie? Sinon, alors on doit faire en sorte de se renforcer pour pouvoir être metaken, et que cette chose-là, elle n'ait pas été donnée pour rien, qu'on puisse tirer une leçon de morale de ça. Et le deuxième paragraphe de Parashat Pekudé dans le Zohar nous dit une autre chose. Nous dit le Zohar que si quelqu'un ne fait pas attention à comment il parle, et qu'il ne fait pas attention au Lashon Hara qu'il dit, et au Nivulpé, le Nivulpé c'est des paroles déplacées, des gros mots qu'on dit, des paroles vulgaires. Sinon on se dit, ouais, mais c'est pas grave, et ça, tout le monde parle comme ça, et ça, il faut être un peu dans le, faut surfer sur les vagues aujourd'hui, et tout ça, on parle un peu comme ci, comme ça, comme des jeunes, et ça, on peut dire toutes sortes de mots, et tout ça. Rabotai. Chafetz Chaim ramène ce Zohar à Kadosh qui nous dit que quand quelqu'un dit des paroles de médisance et des paroles de Nivulpé, des paroles vulgaires, sa prière n'est pas entendue dans le ciel. Pour un petit mot déplacé que tu as dit, je vais pas commencer à vous dire des mots parce qu'on est dans un lieu saint, mais nous on a l'impression, c'est pas grave, on dit des trucs et tout ça, ça sort de notre bouche. Rabotaï, ce petit mot-là, ta tefila, elle est en train de monter au ciel. Et quand il y a une Midat Hadin dans le monde, un jugement de rigueur, on est en train de plonger sur la balance le pour et le contre. Sache, Habibi, mon frère, que ta petite tefila à toi, si elle était arrivée, peut-être que tu aurais pu épargner ces 100 000 personnes qui seraient mortes, parce qu'il y avait, il manquait juste un petit tefila. Mais qu'est-ce qu'elle est, ma tefila tout seul? Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis insignifiant, je suis rien. Habibi, toi, t'es rien, mais si jamais toi, tu sais qu'il y a une balance, et que ton petit mérite à toi, de ta tefila, de ton limout Torah, il peut servir à toute la collectivité, il peut protéger tout le Ham Israël. Et à cause de cette parole mensongère que tu as proclamée, à cause de cette parole blessante que tu as dit, à cause de cette parole vulgaire que tu as dit, ça ne peut pas peser dans la balance. C'est pas dommage. C'est pour ça que le Chafetz Chaim dit, quand il y a des catastrophes dans le monde, l'homme il doit se remettre en question pour voir s'il est, il a une relation avec la médisance. Et aussi pour voir qu'est-ce qu'il peut faire en sorte de faire attention à ce qu'il dit, à ce qui sort de sa bouche, pour que sa tefila soit reçue dans le ciel, pour que ces paroles de Torah qu'il étudie, elles puissent protéger tout le Ham Israël. On voit dans les diplés Rabotai, puisque c'est la paracha de cette semaine et de la semaine dernière, parachat Bo et parachat Vaïra. Pourquoi la paracha s'appelle Bo? Bo c'est 3 Gematria Shalosh, que c'est les 3 plaies qui restent. C'est pour ça qu'on l'appelle parachat Bo et tout ça. Parce qu'il reste 3 plaies. Dans cette paracha, il y a 3 plaies. Dans la paracha de Vaïra, il y en a 7. Dans les plaies, Akadosh Baruch Hu, mes chers amis, il a envoyé des plaies dans le monde. Vous savez pour quelle raison? Il a envoyé les plaies pour lutter contre 3 formes de Avodah Zara et 3 formes d'hérésie qu'il y avait dans le monde à l'époque. Comme ça nous rapporte le Ramban. La première chose que les gens disposaient à l'époque, les idolâtres de l'époque, ils disaient, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il s'en est retiré. Et le monde est en train de se gérer par lui-même. La deuxième façon de contester la providence d'Hachem était de dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il est encore en train de le diriger, mais Akadosh Baruch Hu dirige le monde que de façon globale. Mais il ne dirige pas le monde de façon particulière. Comme le gars parfois il peut se dire, et ça nous arrive à chacun d'entre nous, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il m'a oublié? Habibi, il t'oublie pas, Hachem il regarde tout. Et comment Akadosh Baruch Hu il peut s'occuper de tout le monde? Il y a des millions, des milliards d'habitants et tout ça. Comment Hachem il peut être partout au même moment? Invraisemblable. Il dit ça, c'est la émouna de base du Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu il regarde chacun et chaque chose qui t'arrive dans ta petite vie. Akadosh Baruch Hu il est mémané, il nomme derrière chaque brin d'herbe, des malachim, des anges qui sont préposés à faire pousser chaque brin d'herbe. Chaque brin d'herbe, il a un ange qui est venu le faire pousser. Alors est-ce que tu crois que sur ce brin d'herbe là, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, toi on ne s'occupe pas de toi. Que tout le monde entier il a été créé pour toi, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin. Bijvili Ibrahim, le monde entier il a été créé pour moi. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu t'a oublié, Akadosh Baruch Hu t'a laissé de côté. Qu'est-ce que tu penses? Hachem il s'occupe de chacun. Et ces idolâtres là, ils disaient non. Hachem il dirige de façon globale, mais de façon particulière, Akadosh Baruch Hu il dirige pas. C'était la deuxième forme. Troisième forme, nous dit le Ramban. Il y avait des gens qui disaient Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Il a créé le monde. Il dirige le monde de façon particulière et de façon globale, mais il n'est pas seul, Chas Veshalam, à diriger le monde. Il y en a d'autres qui dirigent avec lui le monde. Regardez bien ce qui se passe ici, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, pour répondre à ces trois formes d'hérésie, il a envoyé trois séries de plaies, qu'on les appelle dans la Gemara dans la Masechet Psachim, Detzach, Hadash, Be'achav. Rabbi Yehuda, Natanaim, Simanim. Rabbi Yehuda, il donnait des simanim, des moyens mémotechniques, des acrostiches, pour savoir se souvenir facilement des 10 plaies dans l'ordre. Et première série de plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, c'est pour répondre à la première forme d'hérésie, qui était de dire quoi? Qu'Hachem a créé le monde, mais qu'il s'en est retiré. Akadosh Baruch Hu a créé le monde et il s'en est retiré. Quand il a envoyé la première série de plaies, c'est marqué dans la Torah, le verset, Parashat, dans Shemot, chapitre 9, verset 29, c'est marqué, « Lema'am teda ki l'Hachem aharetz. » Pourquoi j'ai envoyé ces plaies? Afin que tu saches que la terre, elle est à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi que la terre est l'Hachem? C'est qu'Hachem, il n'a pas abandonné la terre. Il est encore le directeur du monde. C'est pas qu'Hachem, il a créé, qu'il s'est retiré là-bas, il est dans le ciel, comme les autres, ils disent, etc. Oui, notre Dieu est dans le ciel, il se repose là-bas et tout ça. Hachem, il est présent, il est partout, il est avec nous. La Shrina, il est dans le ciel, mais à Kadosh Baruch Hu, il est partout, il est avec nous, Rabotai. Même dans l'exil, il m'oanochi betzara. La Gemara dans Maseret Megillah, à la page 29, elle dit, Hachem, dans les exils, il a mis la Shrina dans les Batei Knesset et Batei Midrashot. Dans les maisons d'études et dans les synagogues, Hachem il est présent avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, les Mahan, Teda, qu'il Hachem arrête. Afin que tu saches que la terre, qu'à Kadosh Baruch Hu, la terre elle est à lui. C'est lui qui dirige. Dis Rabotai, quelles étaient les premières séries de plaies? Le sang, les grenouilles et les poux. Est-ce que tu crois que si à Kadosh Baruch Hu il avait créé le monde et qu'il avait abandonné la nature maintenant à elle-même, on aurait pu transformer toutes ces immensités d'eau qu'il y avait dans le monde d'Égypte? Et partout ailleurs, tout ce qui entourait l'Égypte, c'est devenu du sang. Mais si jamais le Créateur il s'est retiré, comment c'est possible que cette eau-là elle devienne du sang? Et là, Vadaï, on est obligé d'admettre que quoi? Qu'il y a un Créateur, c'est lui qui a pris cette eau-là et qui l'a rendue du sang. Donc, à Kadosh Baruch Hu, si jamais il est capable de rendre du sang de l'eau et de l'eau du sang, c'est qu'il n'a pas abandonné le monde. Hachem, il vient te faire ce miracle pour te montrer, non, j'ai pas abandonné le monde. Et la terre, c'est moi qui la dirige. Et la preuve, c'est que je suis capable d'inverser la nature des choses. Et cette eau-là, je suis capable de le rendre sang. Et ce sang-là, je suis capable de le rendre eau. De la même façon pour les grenouilles. Ces grenouilles-là, la nature, c'est quoi? C'est la grenouille, elle veut se mettre à l'abri, hein, la grenouille. Il y avait des grenouilles qui venaient, qui rentraient dans le four de Pharaon. Il y avait des grenouilles qui venaient, elles montaient dans le lit de Pharaon, elles se mettaient partout et tout ça. Rabotai, si jamais c'était la nature qui dirigeait, est-ce que ces grenouilles, elles seraient rentrées dans un four? Et là, quoi? Il y a un directeur qui dirige ces grenouilles. Et pour faire la volonté d'Hachem Yitzbarach, ces grenouilles, elles sont rentrées dans le four. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dirigeant, il est là, il est présent, c'est lui qui les dirige, ces grenouilles. C'est lui qui leur dit où aller. Et voilà une multitude de grenouilles qui arrivent comme ça, tu les as pas vues d'ici, ils arrivent toute une équipe de grenouilles. Toute une équipe de poux qui arrivent. La troisième plaie, c'est les poux qui miment. Voilà des poux qui viennent et tout ça, ils commencent à se mettre avec les animaux. Il n'y a pas une épidémie de poux comme ça, ça n'existe pas. Si la nature, elle était elle-même, il y a des poux, ils sont éparpillés. Tous les poux du monde, ils se sont donnés rendez-vous en Égypte pour accomplir la plaie. Allô, et tout ça, le pou, tu m'entends ici, par là, et tout ça, envoie-moi des fax par ici, et des mails par là, Jacqueline, et tout ça, viens le pou, et tout ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec tes pou, et tout ça, ils sont venus tous les pou ici. Si à Kadosh Baruch Hu s'était retiré du monde, ben les pou, chacun, ils seraient restés à leur endroit. Mais quoi? Les sorciers de Pharaon, ils ont été, comme vous dites, ils ont été obligés d'admettre, ça c'est Edva Elohim. C'est marqué, on est obligé d'admettre que c'est le droit de Ribono Shel Olam. C'est le doigt d'Hachem Yitzbarach, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui le patron de l'univers. Parce que les sorciers, ils peuvent agir sur des choses qui sont plus grandes que la taille d'une lentille, nous dit la Gemara. Mais des choses qui sont plus grandes que la taille d'un orge, elle nous dit la Gemara dans Sanhedrin, je crois, ça ils peuvent pas faire. Dit les sorciers, quand il y a quelque chose qui est inférieur à la taille de l'orge, ils sont pas capables. Ils ont dit ça, c'est Ezba Elohim. Donc la première plaie pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et qu'il dirige le monde. Les mans, c'est là qui est l'Hachem Maharet. La deuxième série de plaies, Rabotai, on a dit que c'était pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, les gens ils disaient quoi? Hachem il a créé le monde et après, le monde, il le dirige de façon globale mais pas de façon particulière. Ah bon? Alors le deuxième verset, il est venu pour te dire quoi? C'est marqué dans Shemot. L'Eman Teba qui a mis Hachem de Kerevaret. Cette partie du shiur là, elle est dans la paracha de Bo, dans le Sefer. Si vous voulez vous y reporter après, Bezrat Hachem, vous pourrez le voir, c'est dans paracha de Bo. C'est marqué l'Eman Teba qui a mis Hachem de Kerevaret. Afin que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu au milieu de la terre. Ça veut dire quoi, je suis l'Éternel ton Dieu au milieu de la terre? Ça veut dire, je ne suis pas l'Éternel ton Dieu qui est là, hein, dans la terre. Je vous vois de loin, mais je vous vois de près. Bekerevaret, ça veut dire, je suis au milieu de vous. Imo Anochi Betsara, je suis au milieu de vous, je réside avec vous. Betochami Anochi Oshev, je suis à vos côtés, aux côtés de chacun, je gère chacun. Dans le particulier comme dans la collectivité, je gère chacun des gens qui sont là. Et les gens, ils ont pris conscience de ça, ils ont vu. Comment ils ont vu ça? Akadosh Baruch Hu a voulu montrer qu'il était Majdiar Prati, ça veut dire un dirigeant particulier. Alors il leur a dit, le Ranteda qui a dit, Hachem Bekerevara, je suis l'Éternel ton Dieu au milieu de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Il a amené la peste. La peste, c'est venu toucher le troupeau. Et le Ramban nous dit quelque chose d'invraisemblable. Qui c'est qui a été touché? C'est les bêtes qui étaient mitrites. Les bêtes égyptiennes ont été touchées. Mais les bêtes juives n'ont pas été touchées. On peut se demander une question. Est-ce que le virus de la peste, il sait distinguer et différencier une bête juive et une bête non juive? Quoi, il a fait des études en sociologie, il sait comment on va les rattacher, tout ça. Comment il est capable d'identifier quelle est la bête juive, quelle est la bête non juive? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelque chose facile. On peut dire, si ce n'était pas le Ramban qui vient nous éclairer les yeux, que peut-être que cette épidémie de la peste, elle a été envoyée dans tous les endroits d'Israël, sauf dans Eretz Goshen. Rabotai, Eretz Goshen, c'était en plein milieu de Mitzrayim. Ce n'était pas quelque chose qui était sur une frontière, premièrement. Deuxièmement, nous dit le Ramban, que si jamais il y avait une bête juive qui s'échappait du troupeau des Bnei Israël de Eretz Goshen et qui rentrait chez les Égyptiens, elle n'attrapait pas la peste. Il dit, comment ça elle n'attrape pas la peste? Quoi, le virus, qu'est-ce qui lui arrive ce virus-là? Le virus, il est capable de distinguer si la bête, elle est juive ou si elle est... Peut-être que le virus, il est allé que dans l'endroit où il y avait les bêtes égyptiennes. Le virus, il n'est pas venu dans les endroits où il y avait les bêtes juives. Il dit non. Même si une bête juive, elle allait chez les Égyptiens, le virus ne pouvait pas l'attaquer. Il dit, comment c'est possible? Et là, Morabotaï, la preuve flagrante que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne au virus la possibilité d'attraper les gens. Et donc, il dirige le monde de façon particulière. Il ne dirige pas le monde de façon globale, parce que sinon, même cette bête qui s'est égarée là-bas dans son troupeau, elle allait gambader en Égypte, elle va se faire attraper. Et tu vois que non. Et la Gemara dans Maseret, comme la chef de M. Seguin, je sais que tu connais la chef. Il dit la Gemara dans Baba Batra, elle dit la Gemara dans Baba Batra, écoutez bien ça. Il dit, c'est marqué, Hamat Melech Malachem Avet. La colère du roi, c'est des anges de la mort. On peut se demander une question. C'est quoi la colère du roi? C'est les anges de la mort. On ne connaissait pas les anges de la mort. On ne connaissait qu'un seul ange de la mort. Jusqu'à présent, nous, on savait qu'il n'y avait qu'un seul ange. La Gemara dans Maseret Baba Batra nous dit, Hamat Melech, la colère du roi, Hachem, c'est quoi? Malachem Avet, c'est les anges de la mort. On ne comprend pas. Mon maître Rav Emmanuel Toledano, il m'a dit, j'ai réfléchi à cette phrase et j'ai compris une chose extraordinaire. C'est quoi? C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il utilise les virus comme des anges de la mort. Il y a des fois où quelqu'un, il a décidé à Akadosh Baruch Hu de le prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un virus. Chamat Meler, la colère du roi, elle se manifeste comment? Par Malachem Avet. C'est quoi ces anges de la mort? C'est les virus. Et toi, tu te dis, ah oui, un virus m'a attrapé. Habibi, un virus ne peut pas t'attraper. De la même façon que ce virus, il n'a pas pu attraper par lui-même cette bête qui s'était égarée en Mitzrayim parce qu'elle était juive. De la même façon, le virus, il ne peut pas t'attraper. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne l'ordre à ce virus de te toucher. Mais t'as beau être dans un endroit qui est infesté de virus. Si Akadosh Baruch Hu a décidé de te protéger, de te préserver, il ne pourra jamais rien t'arriver. Comme on raconte sur un grand sadique, sur Rabbi Baruch Toledano, par exemple, un grand géant de la Torah, qui était à Meknesh, un grand sadique. Rabbi Baruch Toledano est aussi sur celui qui était l'aumônier des prisons. Comment il s'appelle l'aumônier des prisons déjà, Rav? Arié Levin, Rav Arié Levin, Radak. Le Rav Arié Levin, on raconte sur lui qui rentrait avec des lépreux pour aller leur laver le dos. Il allait dans les hôpitaux pour aller faire des bikur cholim. Il allait dans les endroits les plus dépravés au niveau de la santé. Mais il lui disait, mais t'es fou, mais tu vas mourir, tu vas te prendre la lèpre, tu vas te prendre des choses. Rav Baruch Toledano, il allait, il frottait le dos des lépreux, il les lavait. Il dit, Rabotai, comment c'est possible une chose pareille? C'est parce que la personne, elle est arrivée à la conclusion de notre shiur à nous qu'Hachem, c'est le patron du monde. Et que ce virus, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'approcher si Hachem ne lui a pas donné la possibilité. C'est Hachem, il barre le dirigeant du monde. C'est sûr que nous qui n'avons pas une imunah chazaka et chez les mains, On n'a pas le droit d'aller laver ces gens-là. On n'a pas le droit de rentrer dans un endroit de danger. Parce que quand est-ce que tu es protégé, c'est quand tu es sûr qu'Hachem est avec toi. Comme il a dit dans l'Ibavéler, Hachem li velo iram et Asidi Adam. Hachem est avec moi, j'ai pas peur que tu me fais l'homme. J'ai peur de rien, je suis avec Hachem Idvara. Eux, ils avaient tellement la connaissance et la conception qu'Hachem, c'est le patron de l'univers, qu'ils pouvaient rentrer dans les zones les plus dangereuses. Si c'était pour accomplir la mitzvah, il ne m'arrivera rien de mal. Parce qu'ils savent que le virus ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'approcher. Dans cette génération de kofrout dans laquelle on vit des régies, on dit voilà, le virus il m'a attrapé, il t'a rien attrapé du tout. Chamat meler malachem avet. C'est pour ça que la personne elle est alitée. Quand elle attrape un virus, elle est alitée. Dans le ciel, on est en train de la juger. On est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire d'elle. Si tu fais tchouva, le virus il s'en va. Si tu fais pas tchouva, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui se passe? C'est un dîme qui est ouvert dans le ciel pour toi. Toi, tu dois, à ce moment-là, quand tu es alité, tu dois te dire, on est en train de me juger dans le ciel. C'est pas la fatalité de ce virus qui m'a attrapé, on me juge dans le ciel, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire de moi. Alors à ce moment-là, je dois faire souvent, moi et ma famille, les gens qui sont autour de moi, je dois me renforcer. Je dois voir qu'est-ce que je dois corriger en moi. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a montré ici. Hachem, c'est le dirigeant particulier de chacun d'entre nous, Rabotai. Chacun d'entre nous, on est dirigé par lui. De la même façon, cette peste, comment elle est venue, c'est une attaque bactériologique, il a dit mon maître. C'est une attaque bactériologique. Il a envoyé une bactérie, elle a commencé à répandre dans tous les êtres. Ils ont commencé à se... Et à Kadosh Baruch Hu, il a attaqué les Mitzrim par une autre façon, par l'attaque qui s'appelle, on appelle cette attaque-là, l'attaque chimique. L'attaque chimique. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde il est menacé par l'attaque chimique et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment, ils ont envoyé les ulcères, Shekhin. Ils ont pris une poussière, le sable. Ils l'ont jeté, c'est marqué là-bas qu'il y a eu plusieurs miracles. Il a jeté avec les deux mains, il a tenu dans sa main ce que une main, elle peut contenir quatre mains. Ce que Moshe Rabbeinu, il a pris le sable, il l'a envoyé, et à ce moment-là, ces grains de sable, ils se sont répandus dans tout Mitzrayim, et ça a atteint des ulcères dans toutes les populations qu'il y avait là-bas. À ce moment-là, ils ont eu peur et tout ça, ils ont dit, ah, comment ça se fait, on a eu les ulcères et tout ça. C'est l'attaque chimique, Rabotai. L'attaque chimique, il a pris ça, il l'a envoyé, ça s'est répandu. Il nous dit la Gemara qu'il y a eu plusieurs miracles. Que Moshe Rabbeinu, il a été capable de tenir quatre poignées. Deux poignées à lui et deux poignées de Aaron. Et il a dit qu'il a jeté le plus loin possible et tout ça, ça s'est répandu dans tout Mitzrayim. Et comment ça se fait que quand il a envoyé cette poussière-là, cette poussière n'a attaqué que les Bnei Mitzrim et pas les Bnei Israël. C'est qu'il y a un Boré Olam qui dirige où chaque grain il va se déposer. Et que ce grain-là, il ne peut pas attaquer les Bnei Israël si Akadosh Baruch Hu, il les protège. C'est lui le patron du monde. Hachem Yitbar, c'est le patron Rabotai, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Ce grain-là ne peut pas se poser sur cette tête de celui-là parce qu'il est Ben Israël. Mais comment ça, le grain, il s'est distingué? Le grain, il lui tombe dessus, il ne lui fait rien. Il y a un dirigeant du monde. Ce grain-là, il ne peut rien faire si ce n'est pas le patron qui lui a donné ordre de faire une action sur lui. Et cette deuxième série de plaies, Rabotai, c'était pour que les gens ils puissent prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde de façon collective, mais aussi de façon individuelle. Comme c'est marqué dans le verset des Man, Teda qui a mis Hachem Bekerev Aret. Je suis Hachem au milieu de la terre. La troisième série de plaies, Rabotai, Be'achav, venu pour pouvoir dire aux gens qui disait, oui, Hachem, il dirige le monde, il n'a pas créé le monde et il s'est sauvé. Hachem, il dirige le monde de façon collective et de façon individuelle. Mais Hachem, il n'est pas seul à diriger le monde. Il dit, ah bon, Hachem, il n'est pas seul à diriger le monde. À Kadosh Baruch Hu, il leur envoie un télégramme. C'est quoi le télégramme? Les man, teda, je vais vous envoyer une série de plaies, les man, teda, afin que vous sachiez qui aime Kamoni Bechol Aretz. Il n'y a pas comme moi dans toute la terre. C'est moi le patron. Et il n'y a pas un patron comme moi. C'est moi qui dirige tout. Les gens de l'époque, Rabotai, ils se demandaient une chose. Qui c'est qui dirige avec Hachem? Ils se sont dit, il y en a deux qui dirigent avec Hachem. Il y a le roi soleil, à Mavdil. Ce soleil-là, il dirige avec Hachem. Et il y a le roi, qui est la constellation du bélier. La constellation du bélier, elle dirige avec Hachem. Et le roi soleil, il dirige avec Hachem. Et si vous regardez le Yalkut Me'am Loez, un commentaire magnifique, il dit, chacune des plaies, elle est venue pour taper sur chacune des planètes. Parce qu'il disait chacune des planètes, elle dirige quelque chose et tout ça, et les astres et tout ça. Mais en tout cas, les deux principales choses que les gens ils avaient comme foi dans d'autres dirigeants dans le monde, c'était le roi soleil et le roi bélier, la constellation, l'étoile du bélier. On la connaît l'étoile du bélier, non? L'étoile du berger aussi. Hein. Mais ça, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, c'est une chanson. Alors regardez bien. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il leur a dit comme ça. il y a eu quatre plaies. Il y a eu la grêle, il y a eu les sauterelles, il y a eu l'obscurité, il y a eu la mort des premiers-nés. La grêle, Rabotai, quand il y a eu la grêle, comme on dit, la Gemara nous dit qu'il y a eu des grands miracles, et tout ça, que le feu et l'eau, ils ont fait la paix entre eux pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et punir les Égyptiens. Et c'est marqué que quand la grêle, elle a eu lieu, il y a eu des nuages partout, et il y a eu une obscurité, et tout était couvert, le temps il était couvert. Ah, il est passé où votre soleil qui pouvait vous protéger, vous préserver, tout ça? Comment ça fait que votre soleil ne s'est pas levé et il n'a pas empêché les boules de grêle de tomber sur vous? C'est bizarre. On raconte qu'il y a quelque temps au Bangladesh, ils ont trouvé des boules de grêle de 1 kg qui sont tombées sur les gens et tout ça. La Kadosh Baruch Hu, il veut montrer, tu vois, les gens disent, oui, mais on voit dans la Torah et tout ça, il y avait des grêles énormes et tout ça, ça détruit tout et tout ça, mais comment c'est possible? On ne croit pas et tout ça. La Kadosh Baruch Hu, il t'emmène un peu au Bangladesh, il t'emmène quelques grêles, quelques grelons de 1 kg qui te tombent sur la tête, comme ça tu vois ce qui se passe. Donc ici, où il est le soleil qui est ton Dieu? Où il est le soleil qui peut te protéger, te préserver? Où il est ce soleil-là? T'as dit c'était ton Dieu et tout ça. Le temps était couvert, il y avait des nuages, la grêle. Qui aime Kamoni Becholaret, il n'y a pas comme moi dans le monde. Ton soleil ne peut pas te protéger contre la grêle d'Akadosh Baruch Hu. Les sauterelles, Rabotai. C'est marqué dans les sauterelles, le verset, il dit que les sauterelles, elles ont recouvert le monde. Elles ont recouvert toute la terre à tel point que les gens, ils étaient aveuglés et qu'il y avait plus de, il y avait de l'obscurité dans le monde. Ça recouvrait même le soleil, tellement il y avait des sauterelles. Il est où ton soleil? Il est passé, il est passé. En pleine journée, c'était presque l'obscurité à cause des sauterelles. Mais le Dieu soleil, il dirige le monde. Comment ça se fait que le Dieu soleil, il n'est pas capable d'éclairer tout ça? Non. Les sauterelles, elles sont venues, elles ont voilé toute la lumière. Il n'y avait pas de lumière. De la même façon, sur la plaie de l'obscurité, Rabotai, l'obscurité, le Rocher. En plein jour, pendant une semaine, il y a eu de l'obscurité Atsuma, épaisse, une obscurité épaisse. Que la Torah nous dit, les trois premiers jours, il y avait de l'obscurité. Les trois seconds jours, l'obscurité était tellement épaisse que ceux qui étaient debout, ils ne pouvaient pas s'asseoir, et ceux qui étaient assis, ils ne pouvaient pas se lever. Que ça veut dire? Il dit quoi, quand tu es assis, tu ne sais pas te lever, quand tu es debout, tu ne peux pas t'asseoir. Je ne comprends pas, c'est pas très difficile de s'asseoir ou de se lever. Nous dit le Ramban que l'obscurité, elle était palpable et perceptible, elle était épaisse, et elle empêchait les gens de se lever et de s'asseoir. Il dit, où est ton Dieu soleil? Pendant une semaine, il est passé où ton Dieu soleil? Pourquoi il ne pouvait pas éclairer les gens? Pourquoi il n'est pas venu à votre rescousse quand vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas vous asseoir, et que vous êtes resté dans l'obscurité et les ténèbres pendant une semaine? Où est passé votre Dieu, mes amis? Qui est Nkamoni Becholaret, qui n'y a pas comme moi dans le monde, Akadash Boku, le patron de l'univers à Boutaï. C'est lui le patron, le seul patron. La dernière plaie, Makad Bechorot, la plaie des premiers-nés, la plus redoutable, la plus puissante. Rabotai, vous savez ce qui s'est passé dans cette plaie-là? Cette plaie, elle a été donnée à Nissan. Nissan, c'est le mois dans l'astrologie qui est dominé par le signe du bélier. Et le bélier, c'est le premier-né, nous dit le Yalhut Mamloez, de tous les animaux. De toutes les constellations et de tous les astres, c'est le bélier leur premier-né, tout ça. Il dit, ben alors, en tant que premier-né et en tant que Dieu, tu aurais dû sauver les premiers-nés. Dit, tiens, pourquoi t'es pas venu à la rescousse de tes frères? Parce que eux aussi, c'est comme des animaux, c'est des béliers. C'est toute une équipe de béliers, en fait. Les Égyptiens, c'est des béliers, voilà, c'est des béliers. Où est le bélier, tout ça? Pourquoi il n'est pas venu à la rescousse de ses frères et tout ça? Il dit, en plus, c'est ton moi, c'est toi qui domine, c'est toi qui dirige. On t'a pas pris au dépourvu quand la vie est venue, comme dirait la fontaine et tout ça. On t'a pas pris dans la sphère de la fourmi et tout ça. On t'a pris dans ton moment d'apothéose. C'est toi qui dirige, c'est ton signe astrologique, là, on t'aurait dû les protéger. Et plus encore, on est venu, qu'est-ce qu'on a fait pour cette plaie des promenés, pour pouvoir préserver, protéger les Bnei Israël? On a pris ton bélier, Habibi, on lui a fait la shrita et personne n'a bougé. Où est ton Dieu bélier? Il est mort. Les man teda kien kamoni becholaret, afin que vous sachiez qu'il n'y a pas comme moi dans le monde, c'est moi, Hashem Yitbarach, le Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. C'est moi qui dirige ce monde. Et c'est ce qu'il a voulu lui montrer par ces trois séries de plaies, Rabotai. Qu'Hachem y dirige le monde et qu'il est encore présent. Qu'Hachem y dirige le monde de façon individuelle et collective. Qu'Hachem y dirige le monde tout seul. C'est moi seul et le soleil n'existe pas. Et les autres n'existent pas, il n'y a que moi qui dirige le monde. Pour terminer, mes chers amis, on a vu comment les gens qui se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu, comment ils ont pris des gifles monumentales. Et comment ils sont revenus sur le chemin, ils ont été obligés d'admettre, forcés de constater l'existence d'Hachem et de l'admettre, c'est une évidence qui se présente à nous. Nous disent les Mefarshim, c'est marqué dans la Torah, dans Mishneh, à l'inverse de celui qui se détourne d'Akadosh Baruch Hu et qui voit comment Akadosh Baruch Hu le remet, quand quelqu'un il va avec Akadosh Baruch Hu, combien il est grand et combien il est louable et combien il est protégé et préservé. Comme c'est marqué, Shlomo HaMelech nous l'a dit, le roi Salomon, l'homme le plus intelligent de tous les hommes, Oler Tom, Oler Betar, celui qui va avec Tnimut, que le Ramban nous dit que c'est la mitzvah de toute la Torah, toutes les mitzvahs de la Torah, n'ont qu'une seule finalité, c'est que l'homme il arrive à une dvekut b'Hachem et à une connaissance que c'est Hachem Yitbarach, le meilleur du monde. Que tu puisses prendre conscience qu'il y a un patron dans l'univers. C'est lui, Hachem Yitbarach, le patron, comme on raconte sur le Rav Yecheskel Levinstein, qui était le majdar de la Yeshiva de Ponyovitch. Il appelait toujours le Rav Shlomo Volbe, qui était un des grands balais moussards de la génération d'avant. Il faisait partie de 2 mètres de la génération. Chaque fois, il amenait jusqu'à lui, il habitait à Ber Yaakov, le Rav Shlomo Volbe. Et Rav Yecheskel Levinstein, il était à Bnei Brak, il lui disait, viens me voir, j'ai quelque chose de très important à te dire. Elle lui a dit, si le Rav, il m'appelle et tout ça, c'est qu'il doit avoir quelque chose de très important. Il lui a dit, oui, Grodarav, je sais que toi, tu es en relation avec beaucoup de gens. Et tu as une grande, grande parole, elle est écoutée ta parole dans le Ham Israël. Il lui dit, je t'en prie, mon frère. Va dire à tous les Bnei Israël une chose très importante. Alors lui, ça faisait attendre un très grand chidouche. Il a dit, tu diras à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le directeur du monde. Tu vas leur dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Il dit, mais Grodarav, vous m'avez fait venir ici jusque-là pour ça, mais tout le monde le sait, je vais aller, ils vont me prendre pour un fou si je leur dis ça. Il a dit, si jamais on savait, on ne se comporterait pas de la façon dont on se comporte. Si tu savais qu'Akadosh Baruch Hu c'était le patron de l'univers, Habibi, tu ne bougerais pas de sa volonté, tu ferais à la lettre tout ce que lui te dit. Tu accomplirais à la lettre et tu ne pourrais pas dévier du moindre chose. C'est ton directeur, c'est lui le maître de l'univers. Va dire aux gens cette chose-là, c'est l'évidence la plus importante, que plus tu la répètes, plus tu la vis. Et de la même façon ici, Rabotai, Oler Tom, Oler Betar. Le Ramban nous dit que toutes les mitzvot de la Torah n'ont été données que pour une chose, c'est pour que l'homme il puisse s'attacher à Kadosh Baruch Hu et comprendre qu'Hachem il dirige toute sa vie et se remettre entièrement entre les mains d'Hachem. C'est la marloquette connue entre le Ramban et le Ramban. Que le Ramban il dit que Tamim Tim Hachem Elokecha dans Shoftim, tu seras intègre et entier et naïf avec l'éternel ton Dieu, c'est une des 613 mitzvot. Le Ramban nous dit que c'est pas une des 613 mitzvot le bitachon, la confiance en Dieu. C'est la résultante de toutes les mitzvot qui n'ont qu'une seule finalité, c'est d'arriver à cette mitzvah de bitachon b'Hachem. Donc le Rav nous dit Oler Tom Oler Beta. Pour illustrer ce propos, on raconte une histoire qui s'est passée au temps du Natsil de Volozhin. Le Natsil de Volozhin, c'était un des grands tzadiks qui vivait en Pologne, à Volozhin, dans la yeshiva, qui était la première yeshiva du monde, à Volozhin. Bien sûr, après les yeshivot qu'il y avait au temps de la Gemara, il n'y avait plus du modèle des yeshivot, ils ont réinstauré cette yeshiva. Le tsar de Russie les a convoqués, et il leur a dit, mes chers amis, et tout ça, c'est bien beau votre Torah, mais je vous impose une chose et un ultimatum. Soit vous faites rentrer 2 heures de chol d'études profanes par jour, soit on vous ferme la yeshiva. Donc vous pouvez étudier votre Torah et tout ça, mais il faut que vous étudiez chaque jour pendant 2 heures de chol. Il lui a dit, à faire cela de tienne et tout ça, leur natif de Volozhin, qui était le dirigeant spirituel de la génération, il leur a dit, moi, j'ai pas les épaules pour prendre une décision aussi cruciale. Il a convoqué un colloque de tous les Gdolé Israël. Tout le monde est venu, ils se sont assis, ils se sont installés pour pouvoir réfléchir à cette question cruciale. La question, elle était simple. A priori, on voit, il n'y avait pas de question. Il vaut mieux étudier toute la journée moins de 2 heures de chol que de ne pas étudier du tout. Tout le monde a dit ça. Le Beit HaLevi, qui était un des rabbanim de la yeshiva, qui était le père du Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, qui était un des grands dirigeants au moment de la création de l'État, ici en Israël, c'était un grand, grand tzaddik, Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, un grand Talmid Chacham. Il s'est levé, il a dit, au nom du Dat Torah, au nom de Akadosh Baruch Hu, je voudrais me mettre en minorité face à vous tous, mais je vous demande d'abonder en mon sens. Je décrète que nous devons fermer la yeshiva. Il dit, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et nos maîtres nous ont enseigné la Torah. Jusqu'à présent, l'obligation qu'on a, c'est de restituer la Torah telle qu'on l'a reçue. Nous avons reçu une Torah dépourvue de toute contingence des sphères profanes. On a reçu une Torah chez les mains. Et nous devons, l'obligation que nous avons, c'est de transmettre une Torah chez les mains. On doit donner la Torah comme on l'a reçue. Mais si jamais nous, on doit venir remettre en question le fonctionnement qu'on a reçu de nos maîtres, c'est plus notre responsabilité. Hachem attend que nous donnions la Torah telle qu'on l'a reçue de nos maîtres. Nos maîtres nous ont donné la Torah à 100%. On n'a pas le droit de transmettre la Torah à 80% et 20% de chol. Dit à cet effet, la responsabilité ne nous incombe plus et nous devons remettre les clés au maître de l'univers, à Kadosh Baruch Hu. On jette les clés de la Yeshiva Hachem et c'est lui qui adviendra ce qui adviendra. C'est à Kadosh Baruch Hu qui dirige, mais nous on ne peut plus faire cette chose-là. Les gens se sont mis d'accord avec lui. Tout le monde a accepté ce qu'il a dit. Ils se sont rangés derrière lui, ils ont accepté. Le natif de Volozhin, quelques semaines plus tard, il est mort de chagrin. Quand ils ont fermé la yeshiva, il est mort de chagrin. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, c'est tellement difficile de faire le Dat Torah dans cette situation, c'est tellement dur pour nous. On aimerait tant enseigner à nos enfants. Mais le Beit HaLevi, il a raison. Il est mort dans sa tsava, dans son testament. Il a laissé à son fils. Il dit, sachez que je suis mort. Mais je veux être mort pour quelque chose. Que vous sachiez que la parole du Beit HaLevi, elle doit tenir de génération en génération. Et que jamais nous ferons de compromis. Et que jamais nous ferons rentrer le profane et nous le mélangerons au sacré. Parce que la Torah, c'est la Torah Temet d'Akadosh Baruch Hu, on l'a reçue entière, on doit la restituer entière. Il ne croyait pas que je reviens sur mes positions, que je regrette que les faits, et c'est pour ça que je suis mort. Je suis mort, mais c'est ce que le Beit HaLevi a dit. Akadosh Baruch Hu, vous verrez que puisque lui, il a fait sienne la doctrine que nous venons de citer de Michelet, Oler Tom, Oler Betar, celui qui va avec naïveté et avec entièreté avec Hachem, il va avec sécurité, je dis, vous verrez que ça va s'accomplir. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, les yeshivot ont afflué dans toute Israël, dans toute la Pologne et dans toute l'Europe de l'Est. Partout, il y a eu des yeshivot qui ont commencé. La yeshiva du Chafetz Chaim à la Vachalom. La yeshiva de Kamenitz. Toutes les yeshivot, elles ont commencé à se mettre partout. Les gens, ils ont dit, Ribono Shalom, c'est invraisemblable. Voilà que nous, on croyait que les Russes, ils allaient éradiquer la Torah de tout le monde. Et maintenant, par le décret qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça a engendré? Que la Torah, elle s'est répandue, elle a fait une floraison dans toute l'Europe de l'Est. Comment c'est possible une chose pareille? Chafetz Chaim, il leur a expliqué, Rabotai. Il leur a expliqué quelque chose de merveilleux. Il leur a dit, quand quelqu'un il veut impurifier une fontaine et une source d'eau qui jaillit du sol, il y a deux solutions. Il lui dit, si jamais il veut arrêter de rendre possible la consommation de cette eau vive, deux choses il a. Soit il met un résidu d'ordure à la sortie de cette source d'eau, soit il met son pied dessus et il empêche cette eau-là d'arriver. C'était l'élim et tout ça. Il dit, il y a deux solutions. Soit il met des ordures là-bas. Il dit, quelle est la différence entre les deux? Il a dit, si jamais on met des ordures, l'eau qui va sortir, on ne pourra pas la boire parce qu'elle sera dégueulasse. Il dit, mais si jamais on met notre pied sur cette source, les Russes qui sont venus, ils ont cru qu'ils avaient mis leur pied sur cette source. Aujourd'hui, cette source, elle va s'arrêter. Mais l'eau, elle voudra sortir à d'autres endroits, elle va sortir de tous les côtés. Il dit, c'est ce qui arrive avec la Torah et les Yeshivot. Il a dit, ses ennemis, ils ont cru qu'ils allaient éradiquer la Torah du Ham Israël. Ils ont mis leur pied sur la fontaine. On avait le choix entre se compromettre et mettre des ordures, les sphères profanes, et les mêler avec cette Torah Akdosha. Ils seraient sortis de l'eau, c'est sûr qu'ils seraient sortis de l'eau. L'eau aurait continué. Ça aurait été de l'eau qui serait impure. Il dit, on a choisi la tnimout. On a choisi la naïveté et le bitachon et la sécurité en se jetant entre les mains d'Hachem. Et en comprenant qu'on n'est rien, nous. C'est pas nous qui enseignons la Torah, c'est Hachem Yitbarach, le patron du monde. On a mis notre pied sur la source, les sources, elles sont sorties dans tout le monde. Et là-bas, la différence, c'est que cette source qui sortait partout, c'était de l'eau pure et de l'eau vive. De l'eau théora et gdosha. Comme on raconte sur le Chafetz Chaim un peu plus tard, que l'empereur Nicolas II, il est venu. Il a dit qu'il fallait faire une moitié de journée de Chol et une moitié de journée de Kodesh. La moitié de l'esphère profane, la moitié de l'esphère religieuse. Chafetz Chaim, il a demandé un entretien avec lui. Il est parti là-bas, Rabotai. Il a esquinté. Pendant une demi-heure, il a parlé en yiddish. Il ne savait même pas parler il ne connaissait pas la langue russe, le Chafetz Chaim. Et l'autre, il ne connaissait pas le yiddish. Il est venu, il a vidé son sac, il a démoli pendant une demi-heure, il a parlé, L'autre, il est devenu fou. Il a dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait que celui-là, là, il est venu, ce petit vieux, là, il est en train de me déverser son sac et tout ça, il s'énerve contre moi, il est ma boule. Alors les gens qui étaient autour de là-bas, ils ont commencé à trembler, ils ont eu peur et tout ça. Ils ont dit, oui, notre tsar, excusez-nous, on va vous traduire ce que le rav, il a dit, il vous aime beaucoup et tout ça. Il a une drôle de façon de communiquer avec les gens et tout ça, mais c'est parce qu'il vous aime beaucoup, il a voulu vous dire toutes sortes de choses et tout ça. Ils ont voulu lui traduire le truc pour pouvoir adoucir un peu ce que le rav Ephraim lui avait mis comme moussa. Il a dit, les gens, ils sont rentrés là, les grands représentants et les délégués de la communauté, ils ont dit, on est rentré avec une moitié de Torah, on va sortir avec une moitié de tête, ils ont dit. Il dit, maintenant qu'il a parlé comme ça. Le tsar, il a dit, je veux pas savoir. Et j'ai pas besoin que vous me traduisez, j'ai très bien compris ce qu'il a dit. Il a dit, mais vous parlez pas un mot de yiddish. Il dit, si quelqu'un, je vois qu'il est capable de parler avec une telle conviction, et avec un tel bitachon, avec une telle confiance, qu'il n'a pas peur. Comme c'est marqué qu'il ne doit pas avoir peur devant la face de personne parce qu'il est avec Hachem. Il lui dit, quelqu'un comme ça, moi j'ai peur de lui. Il dit, ce qu'il a demandé, vous le faites. Je ne sais pas ce qu'il a demandé, mais dites-moi juste sa doléance. Et ce qu'il a demandé, il a arrêté. Il a dit, vous pouvez aller. Rabotai, celui qui trouve de grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'il parle bien, c'est pas parce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il a Yirat Shamayim, et qu'il est convaincu de ce qu'il dit, et qu'il veut faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Il veut faire le ratson d'Hachem. Quelqu'un qui est capable d'avoir une telle émouna, un tel bitachon d'Hachem. comme ce qu'ils ont eu ces grands rabbinim de la yeshiva de Vologine. Ils ont dit, mais la Torah, elle va disparaître. Qu'elle disparaisse, la Torah. C'est pas toi le balavaï du monde. On t'a pas demandé de transmettre la Torah avec la moitié de la Torah et de la moitié des sphères profanes. On t'a demandé de transmettre la Torah comme tu l'as reçu de tes maîtres. Ce que tu dois faire, tu le fais. Si tu veux pas, tu donnes les clés à Kadosh Baruch Hu, il s'occupe. Si toi, tu prends conscience que t'es pas indispensable dans le monde, qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose à ta place, alors à ce moment-là, tu pourras. Le dernier pchat que je voulais vous livrer ce soir, mes chers frères, c'est un pchat que j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Je me suis demandé une question. On voit que Pharaon, comme vous le savez, il avait accordé, sous le délégué syndical de l'époque, c'était Moshe Rabbeinu, il avait dit que pour que les Bnei Israël soient plus rentables dans le travail, il fallait leur donner un jour de congé. C'est ce qui a été repris par tous les sociologues et tout ça par la suite et tout ça, les RTT et tout ça, et le jour de congé familial et tout ça, pour que tout le monde se reprenne des forces. Et c'est marqué, le Midrash nous enseigne une chose merveilleuse. Aujourd'hui, ils travaillent deux jours et ils se reposent cinq jours. Et c'est pour ça que les gens... Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On raconte que à ce moment-là, Paro, il leur a donné le Shabbat. Moshe Rabbeinu leur a dit, il faut leur donner le Shabbat et tout ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le Shabbat, Rabotai? Les gens, ils se roulaient pas, ils se doraient pas la pilule le Shabbat. Le Shabbat, ils avaient des mégilotes, c'était des parchemins, sur lesquels on avait reçu la promesse des patriarches et la promesse des anciens qu'un jour les Bnei Israël seraient libérés d'Égypte. Les Bnei Israël, ils avaient l'assurance qu'ils seraient un jour libérés d'Égypte. Ils étaient très contents. À chaque fois, ils étudiaient ça le Shabbat. Ça arrivait, ils faisaient Onek Shabbat avec ça, ils étudiaient, ils se renforçaient dans l'Aïmouna, dans le Bitachon. Hachem, un jour, les délivrerait. Face à cette grande Itlavout qu'ils avaient, cette grande éveil spirituel, Pharaon, il a commencé à trembler. Et il est venu, il a dit, les amis, là, ça va plus du tout. Le Shabbat s'est terminé, il a annulé le Shabbat, donc les Bnei Israël n'ont plus de Shabbat. Et les Bnei Israël, ils ont eu à travailler 7 jours sur 7. Rabotai, on ne comprend pas très bien. J'ai deux questions sur ça. La première question que j'ai, si Pharaon, il a vu que, d'un point de vue socio-économique, la rentabilité et le rendement d'un ouvrier, il était plus favorable quand il avait un jour de repos et un jour de répit, alors pourquoi, soudainement, il a décidé de revenir sur ses positions? C'est la première question. La deuxième question que j'ai, de quoi Paro il est en train de s'inquiéter? Les gens ils sont en train de dire oui on va se faire libérer tout ça. Habibi, rêve jusqu'à demain que tu vas te libérer. T'as qu'à faire tes rêves, t'as qu'à faire tes projets, tes choses. Rabotai, Mitzrayim, la Shon Metzarim, c'était un endroit qui était le plus sécurisé. Alcatraz, c'était de la rigolade à côté. Ils avaient des sorciers, ils savaient garder les gens. Il n'y a jamais une personne qui s'est échappée de cette prison. Comme vous pouvez le voir dans le livre, il y a une chiour qui s'appelle l'Empessar. Parce qu'il y a sur toutes les parachutes et sur les fêtes aussi, ça s'appelle la prison égyptienne. Là-bas, c'est une prison spirituelle, mais aussi matérielle. Jamais personne n'a pu s'échapper. Alors, Paro, de quoi tu as peur? De quoi tu trembles? T'as qu'à leur dire, mais vous voulez rêver? Mais rêvez jusqu'à demain. Vous avez qu'à parler de jusqu'à demain. Faites vos projets. Si ça vous fait plaisir, vous avez qu'à rêver. Moi, j'ai pas de problème. De toute façon, vous pouvez pas sortir de là. Donc, c'est deux questions. Première question, comment ça se fait qu'il revient sur son Shabbat? Et deuxième question, de quoi il s'inquiète? Rabotai, la réponse à cette question, elle est extraordinaire. J'espère, Bedrat Hashem, avoir été mis de caven, quelque chose d'essayat à Dismaya, je crois avoir découvert la vérité et avoir découvert la solution à ce problème. Pharaon, il avait une connaissance que Dieu il dirige le monde et que c'est lui le patron de l'univers après toutes les macottes qu'il a prises. Et même avant, il savait que Dieu il existait. Simplement, son cœur, il était trop fermé, trop dur, il était trop balgartan, il était trop orgueilleux pour se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Mais il savait très bien qu'Hachem, c'est lui le dirigeant du monde. Et il connaissait une chose, que le Nefesh HaChaim nous dit, et également le Rabbeinu Yona, c'est marqué que la Emouna du Ham Israël, elle fixe la Metsiout, la réalité. C'est pas comme ce Marboul de Saint Thomas, Mal Saint Thomas, vous le connaissez, Mal Saint Thomas. Il a dit, je crois que ce que je vois. Nous, on dit complètement l'inverse. Je vois que ce que je crois. Si j'ai la foi d'une foi pleine et entière et profonde, qu'une chose, elle peut arriver, nous dit également le Rav Nachman de Breslav, il dit, alors la chose, elle arrivera. Si dans mon cœur je suis mitraquez, toute ma émouna, tout mon bitachon et toute ma foi, qu'Akadosh Baruch Hu il est capable de faire une chose, par le mérite de ma foi, je vais réussir à la rendre concrète. Il dit par où il avait peur de cette chose. Et c'est marqué un verset, et Rabbeinu Yonah il ramène, ce que le Nefesh HaChaim, le Rav Nachman de Breslev, il ramène, c'est marqué dans le Rabbeinu Yonah dans Mishneh. C'est marqué dans la Torah, Cherdat Adam Yitem Mukesh Vaboter Bashem Yesugav. La peur de l'homme, elle rapproche son malheur. Et la confiance en Dieu, elle ramène la providence et la sécurité. Un terroriste, Chas v'Shalom, est en train d'arriver. Si quelqu'un, il a peur, il faut qu'il se dise que ce terroriste, il ne peut rien faire de lui-même. Dans le ciel, comme on a dit, il y a un jugement qui est en train de se faire sur lui. Si jamais la personne, elle tremble, il faut qu'il sache que c'est cet avéra qu'il a eu de ne pas avoir bitachon d'Hachem, d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va sceller son décret, et à cause de ça, il va partir. Le gars de djihad islamique, il ne peut rien faire si à Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas la possibilité. Donc le gars, parce qu'il a eu la foi que le gars, il peut lui faire quelque chose, il peut lui faire quelque chose. Ça veut dire quoi? La peur de l'homme, c'est ce qui donne l'explosion. Ça veut dire que c'est comme si tu prenais un jerrycan d'essence ou d'huile et que tu le verses sur le feu. Tu rapproches la Sarah de toi. Celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il désamorce la bombe. Il déconnecte cette metziut que cet homme-là, il peut rien faire. Il a confiance, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron de l'univers, Rabotai. Il dit à ce moment-là, il y a un décret. Il dit, Rabbeinu Yonah sur place, un décret, il avait beau être pris depuis 70 ans. 70 ans à l'avance, Akadosh Baruch Hu, il avait pris un décret contre la personne. Si à ce moment-là, il a le bitachon Bachem, il désamorce la bombe. La xéra, elle est annulée par le scrout de son bitachon. Il a désamorcé la bombe. Rabotai et Paro, il connaissait cette chose. Et il s'est dit, j'ai peur d'une chose. Je préfère que les Bnei Israël travaillent pendant 7 jours, moyennement, qu'ils travaillent pendant 6 jours, et que le 7e jour, ils obtiennent leur délivrance par le fait qu'ils vont avoir la confiance qu'Akadosh Baruch Hu va les délivrer. Et il a tellement tremblé du bitachon Bachem. Il a tellement eu peur que si les Bnei Israël, ils y croient de tout leur cœur, à Kadosh Baruch Hu, il va les délivrer, qu'il a décidé de prendre ses xérotes et qu'il a commencé à mépriser la Torah devant eux. Il leur a dit une phrase, Ve'alishu bedivrei shaker. Ne vous adonnez pas à ces paroles de mensonges que la Torah et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il est venu leur faire du moussard? Qu'est-ce qu'il en a fait qu'il croit dans la Torah? Il sait que si jamais les Bnei Israël, ils ont foi dans la Torah, ça va les libérer. Il connaît cette chose-là. Rabotai, de la même façon. On a dit ce soir que la Ishtadlout, les efforts que l'homme y fait pour aller contre Akadosh Baruch Hu, ça sert à rien. La seule chose qui sert, dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, c'est la Tfila, c'est le Limud Torah, c'est la Tzedaka, et c'est les bonnes œuvres. Quelqu'un qui s'adonne à ces trois choses-là, c'est avec ça qu'il peut déchirer toutes les xérotes. Mais qui ne croit pas que s'il travaille plus, il va en réussir, ou s'il fait des choses avec ses mains. C'est ces trois choses-là, c'est les choses les plus importantes. De la même façon, la Gemara dans Shabbat, page 31, nous dit que la dernière question qui sera posée à l'homme quand il arrivera dans le ciel, il y a six questions. L'une des six, c'est Bital Yishua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Rabotai, ça veut dire quoi, t'as attendu la délivrance? C'est que tu as voulu vivre la vie qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu vives. Parce qu'il va t'amener dans le monde qui sera coulo de Neshama. Si toi, tu vis comme un matérialiste toute ta vie, tu t'abandonnes à la matérialité et tu vis que pour ça, et tu respectes pas la Torah, tu respectes pas les mitzvot, dis Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que t'as pas attendu le délivreur. T'as pas attendu le Mashiach. Mais si toi, tu vis, tu as le choix. Rabotai, que ce soir, Bezrat Hashem, on se renforce tous ensemble, qu'on attend Bezrat Hashem, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on fait des choses pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour lui dire qu'il est le bienvenu, pour lui dire qu'on veut accueillir le Mashiach. Alors Bezrat Hashem, Bimera Be'amenu, on sera zoché de le recevoir.